Bonjour les petits potes, c'est toujours votre serviteur Théo. Bienvenue dans l'épisode 24 de Road to 10 Million. Alors exceptionnellement, nous sommes lundi, et oui, et pas dimanche. Nous sommes lundi, il est 14h37. Donc pour la première fois depuis le début de cette série, vous allez entendre ma voix de journée et pas la voix du soir avec le cerveau éteint. Quoique je viens de m'enfiler un petit poulet braisé. Donc je pense que la condition intellectuelle n'est pas non plus irréprochable, comme si j'avais bouffé un poké, par exemple. Les amis, je suis excellemment content de vous retrouver. Ça fait plaisir, mes excuses pour ne pas vous avoir donné l'épisode hier soir, mais bon, je suis rentré tard de la Linker House dont je vais vous parler dans cet épisode, vous inquiétez pas. Et j'ai préféré honorer mon contrat avec moi-même sur le running que de sortir cet épisode fatigué, non écrit. Et celui-là, pour le coup, je pouvais le décaler, parce qu'aller courir deux fois dans une journée, c'est complexe. Donc voilà, je ne pouvais pas décaler ma séance d'hier pour la faire aujourd'hui. Mais bon, ça ne dérangera que les aficionados. Je vous aime, hein, mais je pense que vous pouvez attendre voilà, une petite journée. Et toutes les autres personnes qui l'écouteront plus tard et qui s'en battront les couilles que ça soit enregistré un 4 décembre n'y verront que du feu. Bon, alors, je n'ai pas encore trouvé le titre de cet épisode. Je pense que je le ferai après l'avoir enregistré. Oh là, j'ai un peu chopé froid. À la montagne. Oui, j'étais à la montagne, il y a quoi maintenant j'en parlerai, j'étais à Chamonix. Donc, je n'ai pas encore trouvé de titre à cet épisode, je le ferai, je pense, voilà. Après, en post-prod, tranquillou, quand je vous ferai le plot derrière, peut-être que ce sera basé sur les pendules à l'heure, je pense. J'ai 8 pendules à l'heure cette fois. Non, j'en ai 9. Putain, j'ai quand même écrit. C'est super. Je pense que ça devrait faire un petit épisode d'une heure, comme d'habitude. Bon, en tout cas, voilà. Bienvenue dans le podcast Road to 10 Million. Il faut quand même que je vous déroule l'introduction. Je suis Théo Lyon, j'ai 26 ans et je suis le fondateur de Kodak, mon agence ads qui aide les e-commerçants et les startups sur leur media buying, leur créa et leur tracking. En 3 ans et demi, mon entreprise a atteint 407 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et plus de 62 salariés. L'étape suivante, c'est de l'emmener à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est ce challenge qui donne le nom au podcast. J'ai pour objectif de le faire avant novembre 2024. Dans cette émission, je me sers de mes expériences personnelles, rencontres et lectures diverses pour vous apprendre comment atteindre le top 1% dans ce que vous faites. J'essaie de faire en sorte que vous terminiez chaque épisode en ayant appris au moins une chose qui vous aide à grandir plus vite ou plus loin. Merci beaucoup d'être avec moi dans ce chapitre 24 du podcast. Alors, remettons la charrue avant les bœufs. Non, c'est dans l'autre sens qu'elle fonctionne l'expression. Mettons les choses dans le bon sens, on va plutôt le dire comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode précédent de Road to 10 Million ? Alors, c'était un épisode spécial. Je vous avais parlé de comment penser clairement suite à une lecture que j'ai faite très intéressante d'un bouquin qui s'appelle Clear Thinking, écrit par Shane Parrish, qui en avait déjà écrit quelques-uns qui m'avaient plu avant. Donc voilà, son quatrième bouquin n'a pas dérogé à cette règle. J'ai trouvé excellent et je vous en ai fait une synthèse d'une petite heure dans l'épisode précédent que je vous invite à les consommer. Très, très important de savoir comment d'abord penser par soi-même et ensuite ne pas se laisser influencer par les mauvaises parties de soi-même. J'avais aussi fait un petit débrief sur l'événement personnel de la semaine dernière, enfin du moins le plus important pour moi, c'était ma performance au semi-marathon de Boulogne, qui s'est extrêmement bien soldé et qui a donné lieu à un autre challenge dont je vais vous parler juste après. J'avais fait aussi un petit séjour à Monaco pour aller voir un prospect que je suis allé pitcher moi-même avec mon équipe. D'ailleurs, des nouvelles là-dessus, c'est super. Bah, écoutez, c'est signé, on a eu le go la semaine dernière de ce prospect-là, donc c'est une très très bonne nouvelle, on est hyper content de l'accueillir. Je ne peux pas vous dire le nom de la marque, mais voilà, c'est une marque monégasque, enfin même américaine, implantée à Monaco. Et on est très content que ça rentre chez Kodak, il y a plein de choses sympas à faire. Voilà, on a aussi sorti l'épisode hyper spécial dans l'FT Chaussures avec deux invités à la fois. C'est un crossover, parce qu'on a déjà eu plusieurs invités, mais ce n'était pas des crossovers. Je pense à l'épisode sur Mime, par exemple. Là, c'est vraiment le premier crossover entre Nassim Saïli et Eric Flagg, deux brutes du fitness game YouTube et de l'endurance game, mais aussi de l'entrepreneuriat game. Donc, j'étais très content de pouvoir les recevoir parce que bah ouais, ça regroupe à peu près toutes mes passions, la salle de sport, le running et faire grossir une boîte. Donc voilà, donc c'est super. Franchement, c'est l'une des meilleures expériences que j'ai passées sur un épisode dans l'FT Chaussures. J'espère que ça se verra à l'écran. L'épisode part assez bien en termes de stats, c'est sympathique pour un épisode assez long. De toute façon, les enlève tes chaussures, c'est des épisodes qui se font dans la durée. La majorité des vues ne se font pas sur les premiers jours. Donc là, ça part à peu près sur les chiffres habituels. Je suis très content que ça vous ait plu. Donc, cette semaine, on va commencer par parler actualité. Je vais vous parler de la Linker House, je vais vous parler de mes petites vacances qui ont maintenant démarré. En fait, aujourd'hui, théoriquement, c'est un jour off pour moi, mais bon, le podcast est dans mes hobbies personnels, donc je ne vous oublie pas. Petit update sur mes challenges sportifs. Je vais vous parler des chiffres du podcast et ensuite on parlera de ces 9 pendules à l'heure. On va parler d'honnêteté intellectuelle. On va parler de pourquoi le business, c'est pas l'amitié. Pourquoi c'est très bien comme ça. Pourquoi un bon taf doit rendre le travail indistinguable du fun. Et on va parler de quelques petites lois de pensée, donc des biais psychologiques assez méconnus. Je vous épargne les classiques, hein. J'en ai découvert des très intéressants. Et je voulais vous les partager, toujours pour boucler sur ce sujet de la pensée claire. C'est une première, j'ai déjà la bouche sèche au bout de 5 minutes 30 d'enregistrement. Donc on part sur une première gorgée d'eau. Sachant qu'on est revenu à l'ancienne d'ailleurs, hein, sur cet enregistrement de podcast, parce que j'ai plus mon pied, je crois que je l'ai perdu. Le pied, vous savez, c'est le truc qui tient le micro et qui me permet de ne pas avoir les gling-gling quand ça bouge. Là, on est revenu old school, premier épisode de Road to 10 Million, je tiens le micro dans ma main. Bon, alors j'ai quand même l'antipop. Vous n'allez pas avoir les postillons, mais vous allez avoir du bing-bing. J'en suis bien désolé, mais il n'y a pas le choix. Voilà, c'est ça où je ne le postais pas. Superbe. Bon, commençons par la partie actualité directement. Je commence par vous parler de quoi ? Je commence par vous parler de la Liquor House. Allez, on va quand même s'occuper de l'éléphant dans la pièce. Bon, la Liquor House, c'est quoi ? Vous avez peut-être vu sur mes stories Instagram cette semaine, la semaine dernière. Donc, j'étais à Chamonix. Chamonix, bon, bah, vous ne pouvez pas un dessin, c'est une station ski, hein, les potes. Hein. Y avait énormément de neige, c'était très cool, mais j'y étais pas pour skier. J'y étais dans un cadre absolument professionnel, et oui, ce n'est pas une blague. Donc, la Liquor House, c'est un concept qui est né dans la tête d'Alix Vion, le head of influence de Liquor. Et qui est un. Donc, vous savez, Liquor, c'est notre agence de personal branding. Il y a une branche, enfin, ça a commencé sur LinkedIn, c'est devenu après une agence de marque personnelle 360. Et on est quand même une grosse dominante LinkedIn, et notamment avec une sous-branche de Liquor, qui est la partie influence. Donc, en gros, on a un portefeuille de créateurs, portefeuille, disons, une équipe de talents. C'est mieux comme ça, un portefeuille, c'est plutôt pour des clients. Et donc, ces personnes-là, on les aide à faire des collaborations avec des marques. Et le but, voilà, c'est d'accompagner un petit peu la montée fulgurante du marketing LinkedIn et marketing B2B de manière générale via les influenceurs, qui est un truc qui n'existait pas il y a quelques années. On veut être l'acteur de référence là-dessus. Et donc pour ça, on a pensé à des concepts. Toujours, voilà, le but, c'est de trouver la façon la plus créative de faire parler aux créateurs d'une marque. Donc la Liquor House, ça s'y est très bien prêté. On avait déjà fait une au Cap Ferret il y a 6 mois. Et le but, c'est de faire se rassembler une douzaine d'influenceurs, leur donner un challenge de vue. Enfin, je vous le simplifie, mais en gros, c'est un challenge d'engagement. Il y a un barème qui récompense les créateurs selon à quel point est-ce qu'ils font des vues sur des posts qui mentionnent la marque qui sponsorise la maison. Donc, la dernière fois, c'était Aléo. Cette édition, c'était SEMrush, que vous connaissez. Qui d'ailleurs, j'ai appris que ça se prononçait SEMrush. J'étais outré. Toujours dit SEMrush. Et donc, en gros, l'intérêt, c'est quoi ? C'est que, bah, en plus de faire des impressions pour la marque, on utilise une partie du budget qui nous est confié par cette marque pour l'offrir à une association. Donc, la personne qui fait le plus de vues offre 3000 euros à l'association de son choix. Du coup, ça donne une vibe très très sympathique à la maison, puisque c'est que des gens qui se ressemblent et qui partagent un intérêt commun, qui est la production de contenu sur LinkedIn, et qui en plus servent une bonne cause. Donc voilà, c'est un format qui a très très bien marché, d'autant plus que cette année, cette édition, pardon, on a vraiment step up. Le cadre était dingo. Je me rends compte là, vraiment. Alors, vu que j'étais off, j'ai pas parlé longtemps depuis longtemps. Et là, je crois que j'ai vraiment chopé froid, en fait. J'ai la voix qui est dans le dur, là. J'ai le nez qui coule, j'ai envie de tousser. Donc, mes excuses, normalement, ça devrait pas trop se ressentir au micro, mais la souffrance est dans mon camp. Vous vous en battez les couilles, comme d'habitude, hein. Bande de salauds. Donc, je vous disais quoi ? Je vous parlais, ouais, on a vraiment step up, puisque, déjà, on a loué la maison sur le collectionniste. À partir du moment où t'es sur le collectionniste, donc, en gros, c'est le Airbnb des trucs de porc. C'était assez incroyable, donc je vous décris un peu la demeure. 3 chalets. Hammam, jacuzzi, sauna, non pas hammam, sauna, pardon, je connais pas bien la différence entre les deux. Sauna, salle de sport, enfin bref, c'était, j'avais jamais vu ça, jamais résidé dans une baraque comme ça, et certainement pas dans une station de ski. Donc ça donnait un cadre de ouf qui, enfin, on était content de mettre bien les créateurs, voilà, c'est ça. Donc ça donnait en gros un aspect colo. On était 17 dans 3 chalets, c'était super, les activités étaient cool, les soirées étaient cool, on avait la folie douce de Chamonix que je connaissais pas. Mais le lieu est magnifique. Mais vraiment rien à voir avec toutes les autres folies douces. J'étais allé à celle de Val Thorens. J'ai fait celle des Arcs aussi. Mais ça n'a rien à voir. Celle-là, elle est magnifique. Elle est charmante, en fait. Elle n'est pas. Comment dire ? Elle n'est pas nouveau riche. Vous voyez, les folies douces, hein, c'est un peu. Voilà, ça pose des bouteilles et ça écoute de l'électro chill Summer Mojito, là, c'est une belle demeure. Vraiment une belle demeure. Donc, j'ai adoré. Parce qu'on allait dîner là-bas. Voilà. Donc, je n'ai malgré tout... Enfin, c'était un peu challengeant pour moi parce que je voulais tenir mes objectifs de sport. Vous savez, là, c'est intense en ce moment. Il faut que j'aille courir beaucoup. Et il faut que je fasse toujours mes séances de salle. Hein. Je n'ai pas arrêté le programme Zero to Hero du Raptor. Je continue. Et je vous montrerai bientôt les résultats, je pense, à la fin du trimestre. Avec un nouveau Dexascan, je ne vous en dis pas plus. Donc, c'était challengeant pour moi, mais comme il y a une salle de sport, ça s'est bien passé pour tenir les objectifs fitness. Par contre, sur le running, c'est très, très dur de courir dans la neige. Et en plus de courir en altitude, j'ai quand même essayé de faire une séance de fractionné. Bon, voilà, top 3 souffrance d'une séance de running. J'ai essayé de tenir les allures de mon objectif. Je vous l'ai mis dans un point plus tard, mais c'est plus logique que j'en parle maintenant. Donc, je me suis lancé dans une prépa. Mon objectif, c'est le marathon le 7 avril. Mais entre-temps, j'aimerais bien quand même faire un bon temps sur 10K. Mon record, c'est 44-20. J'aimerais bien passer... Bon, déjà en dessous des 42, et mon objectif ultime, c'est de passer en dessous des 40. Et je pense qu'il va falloir s'entraîner encore un petit peu avant. Donc là, j'ai commencé une prépa à 10 km de 8 semaines. Et ensuite, j'attraperai les 11 dernières semaines restantes pour préparer le marathon. Voilà, donc du coup, je rigole pas sur l'entraînement. Ça a été un peu dur de m'entraîner. J'ai quand même réussi à aller courir hier, donc j'ai fait 2 séances sur 4. C'est pas ouf. Mais j'ai fait les 2 séances les plus dures. Donc je me suis fait mal. Et cette semaine, je pense que je ferai pareil parce que je me casse en vacances. Je vous en parle juste après. Mais donc du coup, voilà, Chamonix s'est très bien passé, tout en faisant un peu la fête. Ça faisait longtemps que... Non, ça faisait pas longtemps que j'avais pas fait la fête, mais disons que c'était un peu ma séance mensuelle de fête. Je pense que j'en fais voilà, une par mois bien, où ça s'envoie fort. Et bah voilà, c'était le cas sur celle-là. C'était super. Évidemment, je vais vous partager tout ça avec vous, parce que j'ai tourné un vlog, les amis. Alors, il n'y en a pas beaucoup sur ma chaîne YouTube, mais cette fois-ci, on a essayé de vous le rendre le plus dense possible, parce que j'ai mixé vlog et FAQ. Donc j'ai pris des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Pas les questions pour ce podcast, j'ai répondu à d'autres. Notamment des questions brûlantes, comme une personne qui m'a demandé est-ce que... c'était quoi la question exacte ? Est-ce que ça marche mieux pour toi avec les meufs depuis Koudak ? Enfin, depuis que tu as fait 1 million, c'est ça la question. Donc j'ai répondu dans ce vlog, je n'y répondrai pas dans cet épisode. Je vous en parlerai plus tard. Voilà. Et donc, de manière générale, si on reprend un peu de hauteur quand même, parce que c'est un événement business, la Linker House, j'étais super content parce que stratégiquement, c'est pas un sujet qui est facile, l'influence LinkedIn. Le ghostwriting, c'est plus facile. Donc, le personal branding, écrire pour des CEO, avec des CEO, c'est plus facile de faire comprendre la valeur. En fait, le problème des business models d'influence, c'est que ça ne vit qu'avec des gros paniers moyens. Pourquoi est-ce que sur Instagram et YouTube, ça marche ? C'est parce que tu as des marques qui sont prêtes à payer des campagnes à 100 000, 150 000, etc. Et comme une agence se rémunère avec un pourcentage, qui va être entre 15 et 40%. Je ne connais pas exactement tous les business models, mais globalement, c'est à peu près ça. Ça te permet de te faire de la marge. Mais si tu vis qu'avec des petits projets, c'est dur. Et forcément, quand un marché est naissant, tu ne vas pas avoir des marques qui vont t'envoyer des grandes campagnes comme on va faire en B2C. Je pense qu'à terme, le potentiel est énorme parce qu'il y a quand même des gros budgets marketing chez les boîtes B2B. Mais là, pour l'instant, c'est petit. Donc du coup, il faut qu'on trouve une équation économique qui est rentable pour ce business model-là, enfin pour cette activité-là, donc l'influence. Et ce genre d'événement comme ça, qui fait quand même des trucs avec beaucoup d'impact pour une marque, et c'est un peu une première, un premier pas dans cette direction-là. Donc c'est super que ça fonctionne, que ça plaise à notre partenaire surtout, et que les créateurs soient contents, donc ça donne envie de le pousser encore plus fort. Voilà pour la Linker House. Donc je vous le disais, c'était les premiers jours de mes vacances, entre guillemets, parce que là c'est pas vraiment des vacances, c'est comme du travail. Et voilà, je vais les poursuivre et figurez-vous que demain, je m'en vais à Bangkok, en Thaïlande, pour faire encore une fois des demi-vacances, puisqu'on va à une conférence qui s'appelle Affiliate World, une conférence sur l'e-commerce, le marketing digital, etc. Je pars demain et je compte bien couper totalement. Mais vous inquiétez pas, mes petits larrons, je serai rentré samedi soir normalement, donc dimanche, si j'ai pas trop le décalage horaire dans la gueule, je pense que je pourrais vous faire un épisode de podcast, ou alors je me laisse... la possibilité, mais très faible chance, de décaler ça au lundi. Et vous avez eu celui de cette semaine le lundi, donc ça vous fera que 7 jours à attendre. Vous pouvez prendre votre mal en patience, même si je vous aime. Voilà. Donc je vous ai déjà fait l'update sport, je retire ça des notes à vous partager. Oui, non, petite précision, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'aimerais documenter sur YouTube cette prépa marathon, mais pas le faire en mode sportif comme Eric Flagg et Nassim l'ont fait, parce que je trouve qu'ils ont fait les meilleures vidéos sur le sujet, je pense pas avoir la possibilité d'en faire des mieux, la capacité. J'aimerais bien faire un truc plus performance personnelle, c'est-à-dire quelles sont les raisons qui peuvent t'inviter à courir un marathon ou à te préparer au running quand tu es entrepreneur, quand tu veux monter une activité économique. Et voilà, je reviens. Donc j'ai commencé à filmer deux, trois petits trucs là. Je ne sais pas encore quelle tournure ça pourra prendre parce que j'ai pas envie non plus de faire du divertissement. C'est pas l'objectif de ma chaîne. Donc dites-moi si vous aimeriez bien, si vous avez un angle, qu'est-ce que vous aimeriez bien savoir en fait sur une personne, un entrepreneur qui court un marathon. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous en battez les couilles? C'est vous qui décidez. Donc dites-le moi plutôt sur Instagram. Théo.le.lyon, je le rappelle. Oui, alors, actu suivante. Vous savez, Spotify a publié les rétrospectives des podcasts. Ils ont publié les rétrospectives de manière générale. Et vous avez vu sur Spotify certainement que vous étiez une personne très originale qui écoutait Drake, Kobalade et Gazo. Et vous avez partagé ça en story en vous disant « Ah, mais je suis tellement un mec stylé de ouf !» et vous pensez que les gens allaient réagir comme ça. Vous êtes con. Et peut-être que vous avez aussi eu, sur les dernières slides de cette rétrospective, les chiffres des podcasts que vous écoutez le plus. Bien moi, j'ai eu côté créateur les chiffres des podcasts, enfin des gens qui ont le plus écouté mon podcast. Et j'ai découvert pas mal de choses intéressantes. Notamment qu'on avait été un jour 84e français, toutes catégories confondues des podcasts. Bon, super, c'est de la vanité métrique. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il te dit le nombre de personnes pour lesquelles ton podcast est top 1. Je crois que pour moi, c'est 850 personnes. Alors, c'est un chiffre... Oula, attendez. C'est le poulet braisé, là. Donc, il y a 854 personnes pour lesquelles Road to 10 Million est leur podcast le plus écouté. Et vous savez, ça vous met aussi des stats et vous êtes dans le top 0, je sais pas quoi, 1% des auditeurs. Alors, le record que j'ai eu, c'est top 0,05%. S'il y a quelqu'un qui est mieux, mettez-le en story, je vous repartagerai. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je trouve que cette métrique, je sais pas pourquoi, elle a de l'impact sur un créateur. Parce que c'est pas juste des... En fait, tu sais pas vraiment ce qui se cache derrière une lecture. Est-ce que c'est une lecture de 30 secondes, de 30 minutes ou alors de tout l'épisode? Là, tu sais quelle partie des gens t'as réussi à hook, à accrocher, c'est-à-dire ceux qui écoutent vraiment tous tes épisodes. Et moi, je suis intéressé parce que c'est vous. En fait, c'est pour vous que je fais ce podcast. C'est pas pour les gens qui sont des touristes. C'est pour vous qui l'écoutez beaucoup. J'aime bien savoir ce que vous kiffez. J'aime bien savoir comment je peux plus vous faire kiffer. Parce qu'en fait, c'est ça qui va être moi ma martingale de croissance. Plus j'arrive à servir les gens avec ce qui vous a plu et que je ne connais pas, parce que je ne suis qu'un humble créateur, pas dans la tête des auditeurs, plus je vais pouvoir faire grossir ce podcast. Donc merci beaucoup d'être une base fidèle. Il y a aussi les stats sur le top, c'est les gens pour lesquels je suis dans le top 5 et les gens pour lesquels je suis dans le top 10. Je crois que top 5 c'est 2000 et top 10 ça doit être 3 ou 4000. Donc c'est super, c'est cool. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a au moins de la rétention sur ce podcast Road to 10 Million. C'est super pour le gros hacker que je suis, qui regarde tout selon le framework R. Voilà pour ça. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que ce podcast commençait à prendre pas mal d'ampleur en fait, dans mes stratégies de contenu, bien qu'il ne soit pas géré par... C'est le seul format qui n'est pas géré par mon équipe contenu Koudak. Vraiment, je le fais dans mon canapé tout seul, pas dans mon studio, il n'y a personne, pas de montage, etc. Donc, je le fais vraiment tout seul. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je le pousse le plus loin, parce que c'est un de mes formats qui a le plus de traction, qui grossit le plus vite. En fait, j'ai des épisodes qui font plus de vues, enfin plus de lectures que des vidéos YouTube, alors que ça fait 6 mois qu'il existe, le podcast. Donc c'est qu'il y a un truc, il y a un truc qui vous plaît dedans, je ne sais pas exactement ce que c'est, peut-être c'est l'aspect un peu journalistique, je pense que c'est ça, et je vous en reparlerai dans l'angle qu'on va donner à la chaîne YouTube, dans le fond juste après là, d'ici quelques secondes. Je pense que c'est ça, et j'aimerais pousser le truc plus loin, j'aimerais pouvoir associer un genre de communauté à ça. Alors c'est un peu compliqué pour moi de savoir exactement quelle est la raison pour laquelle vous suivez ce podcast. Est-ce que vous le suivez parce que vous aimez bien l'entrepreneuriat? Est-ce que vous le suivez parce que vous aimez bien la performance personnel, donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être entrepreneur, mais ça marche. Est-ce que vous le suivez parce que vous faites une agence? Et en fait, moi, il ne faut pas que je me gourre si je fais une communauté sur une de ces thématiques-là. Il faut bien que ça corresponde à ces fameux 850 personnes là, qui sont dans le top 1%. C'est vous que je veux servir. Donc, je vais vous poser la question, certainement. J'aimerais bien le faire via un serveur Discord, assez logique vu qu'on a racheté Netcord. Et j'ai Jules qui est extrêmement pertinent là-dessus. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est si jamais il y avait un Discord Koudak, enfin, ou Road to 10 Million, qu'est-ce que vous aimeriez voir dedans? Je pense que moi, la condition numéro un pour que j'en fasse un, c'est qu'il faudrait que ça soit très discriminant, très sélectif. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de faire passer des sélections d'entretien, donc je le ferai avec un prix qui sera élevé. Je pense que ça, ouais, je crois un truc genre 50, 60, je ne sais pas, ça dépendra de ce qu'il y a dedans et de la valeur que vous en tirez. En tout cas, je ne veux surtout pas me retrouver avec un Discord dans lequel il y a 10 000 personnes. Je veux qu'il y ait un filtre à tocard. Je suis désolé, c'est très pédant, mais c'est la seule condition pour que je sois actif dessus. C'est que je ne veux pas avoir à passer dessus et répondre à des questions auxquelles j'ai répondu 40 milliards de fois. Enfin, c'est limite, c'est pas ça le problème, mais juste avoir des gens qui sont pas sérieux. Je veux que des gens sérieux. Et ça, c'est ce qui va me donner envie à moi aussi d'être rétentif sur mon propre serveur Discord. Parce que vous savez qu'on a déjà essayé d'en faire un. Bon, c'était vraiment que sur le marketing. Et ça demande beaucoup d'entretien. Bon, cette fois-ci, la différence, c'est qu'on a quand même. Enfin, ce sera géré par Netcore. Donc, a priori, bon, bah, le truc va survivre quoi qu'il arrive. J'avais quelques petites idées de trucs à mettre dedans. Notamment, j'ai reçu des remarques sur le fait que vous aimeriez bien avoir un endroit, toutes les pendules à l'heure. Je pense que je pourrais mettre là-dessus. Avec un peu de. Avec des résumés sur chacune d'entre elles. Pour que vous puissiez y accéder. J'aimerais bien vous faire des petits lives FAQ pour être sûr que vous ayez des réponses aux questions, pouvoir peut-être avoir une hotline directe vers vous êtes sûr que votre question aura une réponse dans le podcast. Donc les gens qui payent le Discord ont ça, peut-être des contenus. En fait, la façon dont je voyais le truc, c'est que je me dis, mon hypothèse pour l'instant, c'est que vous suivez ce podcast parce que vous aimez bien vous améliorer. Et vous aimez que ça vous élève un peu le niveau d'ambition et quand vous ne traitez pas en vous caressant la tête comme tout le monde fait, ah, vous êtes bon, c'est pas grave d'être nul. Voilà. Vous faire un peu secouer le cul. Donc, moi, je pense qu'il y a trois parties de la performance. Il y a la performance business, très simple, donc carrière, pro, etc., whatever, donc faire grossir sa boîte. Il y a la performance intellectuelle, donc le mindset. Et il y a la performance physique, la salle, la nourriture, etc. Je pense que j'aimerais bien avoir un peu créé un serveur qui vous permet d'avoir de l'accountability dessus. Moi, c'est le truc qui m'a permis de tenir la préparation semi-marathon. C'est que j'étais avec 4-5 potes qui s'étaient chauffés aussi. Enfin, plutôt 3 potes. Deux potes. Je fais genre, j'ai trop de potes. Non, c'est Guillaume et Jordan, surtout. Et ben j'aimerais bien reproduire ça pour vous. C'est-à-dire avoir des trucs avec des récompenses. Et par exemple, quand tu logues, je sais pas quoi, 30 séances à la salle. Enfin, bref, whatever l'engagement que tu as pris, tu puisses prendre des engagements et t'y tenir. Et bien, tu chopes une récompense. Tu gagnes un statut sur le serveur, ou alors tu as une réduction. Plein d'idées qu'il faudra que je clarifie avec Jules. On se voit à mon retour de vacances là-dessus. Donc, vous attendez pas à ce que ça arrive trop tôt. J'aimerais bien faire ça pour la rentrée. Janvier. Enfin, dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée. Pour le coup, ce sera dans la question que je vous poserai à la fin de l'épisode. Donc, allez voir sur Spotify. Si vous êtes sur Apple Podcast, la fonctionnalité n'existe pas. Donc, ce sera que pour les auditeurs de cette plateforme. Voilà. Donc, tout ça pour dire que suite au succès de ce podcast-là, je me suis posé un peu la question sur la ligne éditoriale YouTube, enfin de ma chaîne YouTube. Parce que vous savez que je pars un peu dans tous les sens. J'aime bien parler de tous les trucs qui me passent par la tête. Mais pas tous les trucs qui me passent par la tête vous plaisent. Ou alors, il y a plein d'idées qui vous plaisent, mais c'est pas le format dans lequel vous voulez le voir. Je pense à des petites vidéos courtes sur, par exemple, le cinquième levier du scale là, de Naval, qui vous a beaucoup plu dans le podcast et qui a fait moins de vues en format 7 minutes là, sur YouTube. Peut-être parce que vous l'aviez déjà entendu ici. Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on va resserrer la ligne éditoriale sur le journal d'un CEO. Alors, ça me fait chier parce qu'il y a un podcast qui s'appelle déjà comme ça, The Diary of a CEO. Et en plus, il est super bien, le podcast. Mais c'est pas vraiment un journal. La personne n'a pas vraiment comment écrit ses propres expériences dans un cahier depuis le premier jour, ce que moi, j'ai fait. Donc, tant pis, je ne veux pas plagier. Mais en tout cas, je pense que ça va être ça. Ça va toujours être axé sur un bout d'expérience personnelle, un bout de réflexion, un apprentissage que je peux vous donner. Donc, je vais essayer de faire des épisodes un peu plus longs. J'en ai déjà enregistré quelques-uns, donc des vidéos de 30-40 minutes où je me pose plus, où je peux rentrer dans la profondeur dans les trucs, ce qui vous plaît ici. Parce que, mine de rien, j'ai pas beaucoup de différence entre les vues de mes formats courts et les vues de mes formats longs. Donc, autant faire des formats longs si ça peut donner plus de matière aux gens qui les regardent. Donc, vous allez avoir plus de choses recentrées là-dessus. Et donc, j'ai découvert en parlant avec des gens qui regardaient la chaîne YouTube que ce qui vous plaît, en fait, dans cette chaîne YouTube, a priori, je pense, j'ai 80% de chance, je suis sûr à 80% de chance, pardon, que ce soit ça, c'est une des rares. On m'a dit que j'étais une des rares chaînes YouTube à parler d'entrepreneuriat de façon honnête. Alors, ça veut tout et rien dire. Mais je peux comprendre ce que ça veut dire dans le cadre du contenu qui est produit sur YouTube. C'est que c'est aujourd'hui monopolisé par des infopreneurs qui vous vendent, pas des conseils d'entrepreneuriat, mais qui assimilent grossir une boîte à prendre des douches froides. Quoi. Et qui ne parlent pas vraiment des... Enfin, leurs échecs sont très caricaturaux, je trouve. C'est toujours « Ouais, j'ai compris ça, j'étais mal, j'étais une merde et tout, mais après, j'ai compris que j'étais un putain de boss. » Ça ne parle pas vraiment des échecs en direct. Et moi, ce que j'aimerais bien, si je peux apporter ma pierre à l'édifice entrepreneurial français sur Internet, c'est de faire comprendre que, la vérité d'un entrepreneur qui a du succès, ce que j'espère un jour atteindre, peut-être, ou le pire, je suis en train de dépasser mon ordi, donc toujours fait maison ce podcast, vous savez, c'est que ces entrepreneurs-là sont pleins de failles. Ils doutent tout le temps, et c'est fine. C'est même un peu une condition, je trouve, pour avoir une boîte dont on est fier. Et que voilà, c'est pas si loin, c'est moins loin que ce que vous pensez. Vous n'avez pas besoin d'être une putain de brute de productivité, même si je vais vous inviter à le devenir en vous dépassant. Ce qui est important surtout, c'est d'avoir un petit mindset qui vous donne envie de progresser tous les jours. Et pour ça, il vous faut du contenu, il vous faut une communauté, bref, tous les trucs. Enfin, je pense que pour construire un petit produit que vous seriez prêt à payer là-dessus, enfin, surtout pour pas avoir des tocards, ça serait important de prendre les trucs que moi je fais et de vous y donner accès. Voilà, donc sur cette chaîne YouTube, ça devrait se traduire de la façon suivante, mais en attendant, il y aura quand même des vidéos sur d'autres sujets, comme par exemple, cette semaine, la seule vidéo qui va sortir, c'est une vidéo qui s'appelle « Les 5 secrets de ces ovnis du e-commerce ». Donc c'est une synthèse des, je sais pas, quelques 60 épisodes des Brut e-commerce que j'ai enregistré, mon autre podcast. Et bah voilà, je vous en tire 5 gros apprentissages sur, selon moi, ce qui fait la différence entre le bottom 99% des marques et le top 1%, parce que je vois parfois des fusées. Je me demandais ce qui les rassemblait, j'ai trouvé des trucs, j'en ai trouvé 5, et ça sort vendredi, je crois. Voilà, petit point chiffre, maintenant, ça fait combien de temps qu'on enregistre ? 25 minutes. Super, à 16h j'ai un rendez-vous, il est 15h02, normalement je ne vais pas dépasser. Donc, on est toujours dans la road to 1000 notes. On est à 472 notes sur Spotify versus 436 il y a une semaine, ça fait plus 36, exactement. J'ai l'impression que vous commencez à comprendre qu'il faut mettre des notes. Et donc j'espère que vous l'avez fait aussi pour d'autres podcasteurs que moi. Et il y a de la gratitude pour le temps qu'on vous accorde. On est à 160 sur Apple Podcast, c'est plus 17 par rapport à la semaine dernière. Bon, bah, toujours aussi compliqué de trouver ou mettre des notes sur Apple Podcast, c'est pas vraiment votre faute. Allez, je vous dédouane, je vous retire l'ownership de ça. C'est plutôt l'UX d'Apple. Donc, je crois qu'il faut descendre tout en bas pour mettre une note. Si jamais ça vous intéresse de soutenir ce podcast, sinon, allez vous faire enculer. Road to 150 000 écoutes. Donc, nous sommes à 79 500 écoutes versus 74 700 la semaine dernière, c'est plus 4 800. C'est une semaine assez standard, voilà. RS là-dessus, le podcast suit son cours, on fait des mois, enfin de mois en mois le podcast grossit bien, c'est ça qui compte pour moi. Et vous savez que normalement il y a un troisième objectif, c'est être premier de la catégorie entrepreneuriat. Alors c'est toujours un truc que ça m'intéresserait, enfin je serais très content de le voir, mais vous savez, je vous ai parlé dans un épisode précédent de la mentalité d'esclave, la morale d'esclave, c'est-à-dire le faible veut renverser le fort. Eh bien j'ai pas capté qu'avoir un objectif sur le classement, je pense que c'est une manifestation on ne peut plus pur de la mentale d'esclave. En gros, ce qui t'intéresse, c'est pas d'avoir le podcast le plus écouté, c'est de passer devant les forts. Voilà. Donc, les amis, on va retirer cet épisode sur le classement, enfin cet objectif sur le classement. C'est pas bon esprit, même si j'espère toujours qu'on sera un jour le format le plus écouté, mais pas en ayant battu les autres, juste en ayant trouvé un truc assez ouf qui vous plaise. Et en ayant tenu dans la durée, parce qu'après 6 mois, quand même, voilà, faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Je suis extrêmement content du développement de ce podcast. C'est vraiment cool. Et surtout, j'y prends un plaisir de dingo. Je prends une petite gorgée. Et si vous n'avez pas écouté le podcast sur la mentale d'esclave, putain, je sais plus lequel c'était. Je pense qu'il y a 2 épisodes. C'est un extrait de la newsletter de mon associé, Paul. Mais allez écouter. C'est un truc de Nietzsche très, très, très important à comprendre. Bon, on passe aux pendules à l'heure. J'en ai 9. Et on commence par la première, je vais vous parler d'honnêteté intellectuelle. Alors, je me suis rendu compte la semaine dernière que j'avais un sentiment un peu bizarre à chaque fois que je voyais un débat, ou alors un bout de débat, vous savez, en extrait sur Instagram, etc. Et du coup, j'ai éprouvé. Maintenant, je ressens un dégoût assez profond pour toutes les joutes verbales et filmées en plus, qui sont présentées en fait comme des joutes d'idées, c'est-à-dire que normalement, c'est la meilleure idée qui gagne. Mais je ressens toujours un malaise dans ce genre d'exercice-là. Je me suis un peu demandé pourquoi, et je crois que j'ai trouvé. J'ai l'impression quand même que le format débat, c'est un format qui empêche d'avoir de l'empathie pour l'adversaire. Je trouve que c'est un gros problème pour une personne qui se veut être, comment est-ce qu'on dit, honnête intellectuellement. Ça veut dire avoir l'honnêteté d'accepter une idée quand elle est vraie, peu importe par qui elle est dite. Je trouve que c'est très compliqué d'avoir de l'empathie pour un adversaire dans un débat télévisé, parce qu'on va souvent remplacer, c'est pas une quête de vérité, mais c'est plutôt une quête de destruction de l'opinion de l'autre. Donc ça veut dire qu'on se laisse pas la possibilité de changer d'avis. Je trouve que les discussions sont pas très intéressantes quand ce petit exercice n'est pas fait. Parce qu'en fait, vraiment, quand tu veux profondément détruire un argument, souvent, ce que tu dois faire, la première étape, c'est d'essayer de le comprendre et de trouver des arguments en sa faveur. Donc t'es pas d'accord avec quelque chose, tu vas te dire, alors, qu'est-ce qui pourrait faire que la personne en face de moi pense ce qu'elle est en train de penser ? Quelle expérience personnelle est-ce qu'elle a eue ? Comment est-ce qu'elle a construit son raisonnement ? Et comment est-ce que moi... Enfin, est-ce que je suis... Est-ce qu'en fait... Alors, vous voyez, j'ai 40 idées qui se bousculent à la fois. Bon, déjà, est-ce que je peux détruire son argument en trouvant son raisonnement ? Ou alors, est-ce que je me rends compte, en fait, en remontant son raisonnement, que c'est peut-être le mien qui n'est pas si parfait que ça ? J'ai l'impression que ce scénario-là, en particulier, il n'est pas possible dans des débats. Il est rendu impossible par le fait qu'il y ait de la pression, des caméras, une opposition... souvent des tons qui montent, etc. Donc je trouve que le débat ne remplit pas son objectif, qui est d'opposer des idées et faire gagner la meilleure. Et parce que je trouve que quand tu fais cet effort-là dès le démarrage, donc c'est-à-dire avant d'ouvrir, tu ne vas pas ouvrir ta prise de parole par « t'es une grosse merde parce que » ou « je pense différemment parce que », mais « ok, donc en gros, tu dis ça pour telle raison. Est-ce que tu peux m'expliquer juste pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça ?» Et quand tu ouvres un débat comme ça, tu ouvres une vraie discussion. La personne en face de toi se dit « ah, je ne suis pas avec un trou du cul. Je suis quelqu'un qui est en train d'essayer de comprendre ce que je dis. » Alors peut-être qu'il va me démonter derrière. En tout cas, tu mets un climat de pas d'empathie, quoi, simplement, de considération de l'autre, et je trouve ça beaucoup plus agréable. Même, c'est un bon conseil de management, ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu, quand quelqu'un vous dit un truc avec lequel vous n'êtes pas d'accord, mettez une étape juste avant de lui dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, qui va être de comprendre d'où vient cette opinion-là. Donc, en gros, qu'est-ce qui pourrait faire que la personne en face de moi pense de la sorte ? Ouais, bon, alors, je vais vous prendre un petit exemple. Moi, j'ai. Il y a un truc qui me. Pas qui me fascine. J'ai un sujet, je comprends pas moi pourquoi est-ce que des personnes veulent pas d'enfants. C'est un truc, c'est une opinion personnelle que j'ai. Et donc mon argument principal à moi, il est très simple, c'est que je veux vivre l'expérience d'aimer quelqu'un plus que moi-même. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres choses qui puissent te le permettre. Et je veux toutes les expériences de vie qui vont avec la parentalité. J'ai quand même l'impression que c'est un peu ancré dans l'espèce, la reproduction, et que tu rates une grosse partie si tu joues pas à ce jeu-là. Bon, là, la première étape, ça serait de chier sur tous les gens qui ne veulent pas d'enfants, qui décident de ne pas perpétuer l'espèce, très simplement. Que nenni, on va pas penser comme ça, on va pas faire les fils de pute de totalitaire intellectuel. On va plutôt essayer de te demander pourquoi. Donc là, tu peux trouver, c'est là où en fait, donc quand tu ouvres tout ce pan-là dans ton esprit, tu peux trouver pas mal de choses intéressantes. Donc, par exemple, t'as des gens qui vont pas faire d'enfants parce qu'ils pensent que tu vas donner vie à quelqu'un dans un monde de merde. C'est ok. Bon, et j'ai plein de contre-arguments là-dessus. Je trouve qu'une mauvaise existence, ça vaut mieux que pas d'existence du tout. Mais au moins, ça te permet de comprendre, ok, pourquoi est-ce qu'elle pense que c'est un monde de merde? Et là, tu peux faire tes 5 pourquoi, là, que vous connaissez bien, et comprendre, ok, bah, peut-être parce qu'elle a eu une expérience de merde, ou là, je sais pas, elle a été élevée par des parents pas ouf, ou alors, je sais pas, elle est très accro, très à cheval sur des causes écologiques, etc. Et tu peux, en fait, te faire un personnage qui t'explique pourquoi est-ce que vous avez une divergence intellectuelle. Tu peux avoir d'autres arguments, tu as d'autres types de personnes qui s'en foutent de l'écologie, ou je sais pas quoi, mais qui juste veulent pas les soucis associés au fait d'avoir un gosse, qui aiment pas la pression qu'on met aux gens d'avoir des enfants, ce qui est totalement fine. Et en gros, ça te permet de comprendre la personne. Et ce qui est intéressant, c'est que tu te rends compte que dans chaque débat, si tu creuses un peu, et pour moi, c'est ça que devrait faire un vrai débat, tu vas toujours être envoyé vers des croyances qu'ont les gens et qui expliquent les divergences d'opinion. Soit ça va être un truc que tu as vécu, ou un raisonnement particulier sur lequel tu vas prendre comme admis quelque chose que la personne en face de toi va réfuter. Et c'est ça qui est intéressant de trouver. Et un petit exemple, une croyance qui change beaucoup la façon dont se comportent les gens dans ce monde, c'est est-ce que tu crois que les gens sont bons ou les gens sont mauvais? Est-ce qu'ils sont bien intentionnés? Est-ce que quand tu rencontres un inconnu dans la rue, il va vouloir ton bien ou il va vouloir ton mal? Est-ce que l'être humain, à la base, il est bien ou il est pas bon? Et bien là, vous vous dites, forcément, quand vous écoutez ça, il y a une réponse, vous dites, il y a une réponse évidente. Si vous dites ça, c'est que vous êtes d'un côté ou l'autre de l'argument. Et précisément, ça, c'est la définition d'une croyance. C'est très, très compliqué à démontrer. C'est un théorème qui est un peu dur, c'est que c'est compliqué. Tu peux facilement invalider l'un ou l'autre, mais en prouver un des deux, c'est compliqué. Tu peux trouver des gens qui sont mauvais et des gens qui sont bons. Ça permettrait de dire j'ai un contre-exemple pour chacun des gens. Mais au global, ça va être compliqué de dire est-ce qu'un être humain il est bien ou il est pas bien. Et donc selon ce que tu penses que va faire un inconnu à toi, ta famille, tes amis, etc. Tu vas pas construire ta vie pareil. Si tu penses que les gens sont mauvais, moi j'ai l'impression que de manière générale les gens sont égoïstes, pas mauvais mais égoïstes. Tu peux te prémunir contre ça. Donc savoir que le meilleur remède contre l'égoïsme pour moi c'est le fait de prendre soin de son petit jardin et des siens proches. Enfin, moi, du coup, c'est ma politique, mais je suis très ouvert à changer d'avis là-dessus. S'il y a quelqu'un qui apporte un argument différent là-dessus, je le ferai. Enfin, je le croirai. Et donc, tu vas avoir des comportements différents selon ce que tu crois. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant de trouver. C'est qu'à la fin, tu vas trouver quelles sont les deux croyances qui fondamentalement font par-dessus toutes les couches du millefeuille là, qu'on n'est pas d'accord. Et ça va te permettre, au lieu de traiter les gens de cons, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils pensent quelque chose. Et pour moi, ça, c'est la définition, c'est ça qui te permet de devenir honnête intellectuellement et intelligent, dans la définition même de l'intelligence, c'est que tu vas rajouter une perspective au lieu d'essayer d'imposer la tienne aux autres. Et je trouve que les gens les plus intelligents, c'est les gens qui sont capables d'avoir un maximum de perspectives à la fois sur une idée donnée. C'est pour ça que souvent, je trouve qu'il y a de la sagesse chez les gens qui ont voyagé, qui ont vu des perspectives différentes, et qui sont capables d'apporter un point de vue nouveau sur quelque chose sur lequel toi, tu le voyais toujours d'un côté. Voilà, donc l'honnêteté intellectuelle, c'est très important. Faites attention avant de vous engager dans des débats. Souvent, ça va être stérile et ça va juste froisser les deux parties. Et ça marche aussi avec vos potes, hein. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une caméra sur vos gueules. Numéro 2. Le KPI cesse d'être utile quand il devient l'objectif. Petite gorgée. Bon, Je vais commencer par vous expliquer, vous rappeler une équation de croissance que vous connaissez bien, c'est celle d'une agence. Donc une agence, ça grossit de façon très simple, c'est le nombre de ventes que tu fais au client, fois le panier moyen de chacune de ces ventes, fois la rétention dans le temps. Si tu vends un abonnement, c'est important. Ou alors le nombre de commandes qu'il va te faire à l'année, c'est ça la rétention. Alors c'est très agréable de simplifier des business avec des équations comme ça, parce que c'est des choses qui sont simples à mesurer. Donc tu peux te dire, bon, bah, si mes ventes progressent, si mon panier moyen progresse, si ma rétention progresse, alors mon business va dans le bon sens. Le problème, c'est que tu as des gens qui vont ériger ça en religion. Et il y a toujours un écueil dans le fait d'aller dans l'extrême sur quelque chose. Donc par exemple, si tu prends chacune de ces métriques, il peut y avoir des scénarios où elles progressent, mais ta boîte, elle ne progresse pas. Tu vas te dire, bon, bah, j'ai trois variables, j'ai qu'à faire grossir chacune d'entre elles, donc je vais faire grossir la vente, je vais la faire grossir très fort. Comment je vais faire? Bon, bah, je parlais à 10 leads par semaine, j'en closais la moitié, et bien je vais essayer d'ouvrir un peu mes critères et de donc, non seulement closer mieux, mais aussi dire oui à plus de personnes. Donc là, tu pousses ce truc à l'extrême, tu fais rentrer des gens de merde qui vont pas te payer cher et qui vont avoir une rétention faible. Sur le panier moyen, eh bien, tu vas dire, bon, bah, il faut que j'ai le panier moyen le plus haut possible, donc tu vas essayer d'enculer les gens sur le court terme, la facture et les trucs les plus chers possibles, et ça va niquer ta rétention, ou alors tu vas moins vendre. Sur la rétention, bah, pour l'augmenter, c'est très simple, tu vas faire signer des engagements à tes personnes. Bon, là, tu vas limiter tes capacités de vente, du coup, c'est plus compliqué de vendre un engagement qu'un truc pas engageant, et tu vas limiter la satisfaction du client, et donc ta pérennité à long terme. Bon, vous voyez, du coup, le monde n'est pas un système simple. Quand tu fais bouger un facteur, t'en fais bouger 40 autres. Et c'est précisément pour ça que c'est pas intéressant d'ériger un KPI en objectif, de se dire j'ai cette métrique là, je vais fermer mes yeux à tout ce qu'il y a autour et essayer de la faire progresser. Ça me fait écho aussi à quelque chose que je trouve assez dérangeant, c'est quand vous savez, sur internet on a tendance à ranker les gens, surtout sur le contenu entrepreneurial et infopreneurial en particulier, selon les chiffres. Les gens vont juger la qualité de quelqu'un en disant bon, combien il vend lui, il fait quoi. Les chiffres de vente de formation, pour moi, c'est l'exemple parfait du problème de la KPI érigée en objectif. C'est-à-dire que les gens vont, comme le public va faire une hiérarchie de crédibilité selon les chiffres de vente, et mettre tout en haut celui qui vend le plus, et bien les infopreneurs vont aussi faire ça, c'est-à-dire qu'ils vont se dire quelles sont toutes les actions que je peux entreprendre au quotidien pour faire grossir mon chiffre d'affaires. Et c'est là où vous voyez que vous pouvez rapidement vous trouver dans des dilemmes un peu éthiques compliqués. Donc si par exemple mon but est d'augmenter les ventes de formation, bah, j'ai intérêt à faire un gros coup avec une énorme promotion, un gros lancement, etc. sur le court terme. Et finalement, je m'en branle de la satisfaction derrière des gens. Pas très important, parce que une métrique d'ailleurs qui pourrait être plus intéressante là-dessus, c'est le chiffre d'affaires long terme, enfin moyen lissé sur l'année d'un formateur sur 5 à 10 ans. Ça, c'est plus intéressant déjà, parce que c'est compliqué si t'es un gros tocard de faire ça. Ou alors la satisfaction des gens qui sortent de la formation. Bref, le but, c'est pas forcément de dire qu'il y a une autre métrique qui est plus intéressante que la métrique dont on parlait, parce qu'on referait exactement la même erreur que celle que j'étais en train de vous dire. Donc le KPI, on changerait de KPI et d'objectif. C'est surtout de se dire que tu peux pas. La proposition, toute chose égale par ailleurs, ça existe qu'en maths. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas faire bouger une variable sans faire bouger les autres. Il n'y a pas beaucoup de variables indépendantes. Voilà, tu ne peux pas dire je vais signer deux fois plus et tout va être pareil sur le panier moyen, la rétention, ça ne marche pas. Et ça, c'est le grand drame hein, d'ailleurs des choses qui sont vraies sur le papier mais pas vraies en pratique et qu'ils doivent découvrir à tous les clients qui ont commencé à faire de la publicité en ligne. Souvent, tu sais, tu dépenses 3000 euros, tu en gagnes 6000, tu te dis bon, super, je vais dépenser 6000 euros, j'en gagne 12000. Et là, tu prends la première leçon d'entrepreneuriat et de marketing, c'est que ça n'est pas le cas du tout. Ça ne se passe jamais comme ça. Voilà. Et donc, pour moi, je pense que c'est un KPI, en fait, c'est pas que ça n'a pas d'utilité, c'est que ça n'a pas d'utilité comme religion. Un KPI, pour moi, c'est comme un business plan. Ça ne sert pas à prédire l'avenir ou à faire un objectif de boîte. Ça sert à comprendre c'est quoi les grandes variables de ton business et comment est-ce qu'elles évoluent les unes avec les autres. De comprendre que, par exemple, quand je vais essayer de vendre à plus de personnes, ah, peut-être que ma rétention va diminuer. Bon, bah, cette variable, elle évolue en même temps que cette variable. Donc, tu vas comprendre quels sont les trucs qui font changer la trajectoire de ton business. Et si tu ne fais pas l'exercice vraiment du business plan ou des KPI, de demander qu'est-ce qui est important pour moi, eh bien, tu ne peux pas le découvrir, ce truc-là. Mais il ne faut pas oublier que les choses, c'est un système. Tu ne peux pas ignorer des parties du système et espérer qu'au global, donc la masse que ça représente, va aller vers le haut. Donc, moi, je vous conseille, quand vous mettez des métriques, d'accepter une part d'imprécision. Moi, j'aime bien le raisonnement derrière un peu la North Star. La North Star, donc, c'est l'étoile du berger. Et ça va être un chiffre qui va témoigner de la valeur que tu apportes au client. Je vous en ai déjà parlé des tonnes de fois. Pour une marketplace, ça va être la grosse merchandise value. Donc, combien est-ce qu'il y a de transactions qui sont faites? Pour Uber, ça va être la même chose. Nombre de rides qui sont faites, la valeur globale des trajets qui sont payés par les utilisateurs. Tu peux en avoir des tonnes. Mais en gros, c'est un truc qui est côté client, qui va te dire que si cette métrique-là, c'est très rare que cette métrique-là aille vers le bas et que mon business ne grossisse pas. Mais bien sûr, il y a plein d'erreurs possibles. Hein. qui peuvent être faites là-dessus. Et je vous conseille juste voilà, de faire attention aux extrêmes, aux effets de bord, qui font que quand on va pousser le truc trop à l'extrême, eh bien, ça va produire des conneries. Donc, c'est pour ça que pousser le truc trop à l'extrême, ça peut être résumé par quoi ? Par prendre la KPI et en faire un objectif. Et donc, pour moi, pour pallier... je ne sais même pas comment ça s'emploie d'ailleurs ce mot. C'est un mot pallier A, pallier le manque. Je crois qu'il n'y a pas de A. Pallier l'écueil de ces KPI-là, il faut apprendre à les changer souvent. Dès que tu vois que KPI t'emmène dans une direction que tu n'aimes pas trop, c'est comme l'exemple des serpents dont je vous parlais la dernière fois. Quand tu veux éradiquer les serpents, tu vas compter les têtes de serpents qu'on te ramène. Mais en fait, derrière, les gens, ils élèvent des serpents pour te ramener des têtes de serpents, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est ça, et bah, tu vas changer la KPI. Donc par exemple, pour les agences, nous, comment est-ce qu'on fait ? Quand on lance une agence, il n'y a qu'un seul objectif, c'est le nombre de clients actifs, le nombre de clients en portefeuille. Après, on va commencer à faire des trucs un peu plus fins quand il y a plus de clients. Bon, par exemple, le nombre de clients qui sont là depuis plus que X mois, si tu veux, c'est un service d'abonnement. Puis ensuite, le nombre de clients dans ton portefeuille qui ont déjà parlé de toi. Et là, tu vas pouvoir faire vraiment des raisonnements de North Star et ça n'est pas figé dans le temps. Sinon, vous allez aller dans un mur. C'était la pendule numéro 2. Pendule numéro 3, avec un accent du sud. Les limites de la rationalité. Alors, ça, c'est un petit extrait que je vais vous lire qui vient d'une newsletter que je vous recommande, qui est écrite par Rob Anderson. Alors, je vous promets, les amis, cette fois-ci, je vais la mettre dans les ressources. Je me suis mis un petit rappel à la fin de l'épisode. Je vais écrire le sondage et je vais vous mettre dans les ressources cette newsletter. Alors, mettons que je vous le dis, je me rends compte que j'ai noté toutes les ressources, sauf celle-là en particulier. Rob Anderson. Voilà. Ça, je n'oublierai pas. Donc, Rob Anderson, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais en tout cas, il écrit des trucs cool. Je voulais vous lire une petite partie sur son raisonnement, sur un truc vers lequel on tend tous, c'est le fait de prendre des décisions les plus rationnelles possibles. Mais encore, même chose, encore une fois, quand on fait une maxime de vie, ça pose quelques problèmes. Ce n'est pas forcément un objectif et vous allez comprendre pourquoi. Donc la rationalité n'est pas une fin en soi. Il s'agit plutôt d'un outil que l'on peut utiliser pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Nous pouvons choisir quand déployer nos pouvoirs de rationalité. Et nous pouvons choisir de nous abstenir de l'appliquer dans des domaines où il n'est peut-être pas le mieux adapté. J'adore cette introduction, elle est très alléchante. D'une certaine manière, la rationalité peut aller à l'encontre du but recherché. Si vous ressentez de la joie, vous pouvez facilement vous en dissuader. Vous pouvez changer d'humeur en raisonnant et en vous enfonçant dans le malheur. Mais si vous vous sentez malheureux, vous n'avez aucune chance d'essayer de vous en sortir par la parole. Il n'est pas si facile de changer d'humeur en raisonnant sur le bonheur. Ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile que l'inverse. Lorsque la rationalité s'immisce dans tous les aspects de notre vie, le bonheur en pâtit. C'est ça l'idée principale de ce que je suis en train de vous lire. Le libre arbitre existe-t-il ? Sommes-nous simplement des véhicules sans cervelle conçus pour transporter nos gènes vers l'avant ? L'amour est-il réel ou n'est-il qu'une série d'interactions chimiques dans votre cerveau ? Est-il logique d'aimer sa famille ou son pays, même si le lien qui nous unit est dû à un accident de naissance ? Si vous commencez à vous demander si chacune de ces croyances, décisions et actions est rationnelle ou si elle a du sens, vous vous exposez à être malheureux. À propos des disputes conjugales, Jordan Peterson a posé la question rhétorique suivante : voulez-vous avoir raison ou voulez-vous être heureux ? Cette question pourrait s'appliquer à d'autres domaines de la vie que les conflits matrimoniaux. Comprenez vos objectifs, et déployez vos pouvoirs de rationalité de manière appropriée. La rationalité est nécessaire au bonheur, mais trop de rationalité, comme remettre en question chaque aspect de la vie et tenter de tout faire entrer dans une configuration cohérente et homogène, donnera lieu à un état d'esprit morose. Bon, j'espère que vous avez réussi à me suivre. Je vous explique. Je vais sélectionner cet extrait parce que... déjà, c'est une idée qui est très intéressante, qui va un peu à l'encontre de la doxa, la thèse commune qu'on peut avoir sur le fait de penser clairement et rationnellement, et surtout parce que je vous ai fait un épisode sur la pensée claire avant. Pour moi, ce que j'en tire là-dessus, c'est qu'il faut accepter d'avoir une part d'irrationnel. Et je l'assimilerai très simplement à garder son âme d'enfant. C'est un truc que je m'astreins à faire, c'est le fait de faire cohabiter deux notions un peu opposées dans un personnage. C'est la maturité et l'âme d'enfant. C'est-à-dire le fait de savoir s'amuser, de laisser de la place à l'imprévu, etc. De ne pas être super organisé sur tout. Super rationnel. J'ai un exemple moi, qui m'a ancré cette croyance très profonde en moi, c'est quand j'ai quitté mon stage en agence en Australie. Je me souviens très bien du sentiment que j'ai eu sur le moment, c'est de me dire que j'étais complètement con. Et avec le recul, je me rends compte que c'était un caprice. C'était vraiment un caprice. Ah, je suis pas content, etc. Ah, nique ta mère, je me casse. Et en fait, il n'y avait pas de raison rationnelle de partir. J'aurais pu corriger en fait, tous les problèmes que j'avais, qui n'étaient pas si compliqués à résoudre. Alors, juste avec une discussion avec un manager que je n'ai jamais eu, je n'ai pas essayé de négocier, etc. Bref, c'est une décision qui était un caprice. Et ce truc-là, en fait, paradoxalement, a ouvert tout un pan de ma vie qui a été, auquel j'ai été forcé en fait, par les conséquences de mon action, qui est de ne plus avoir de stage, d'avoir du temps libre, d'être un diplômé d'HEC et d'avoir l'impression que je ne pouvais plus taffer dans une boîte. Ça a ouvert en fait, tout ce que j'ai fait aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu ce caprice fondateur, initial, ben, j'aurais jamais monté Kodak. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et bien, ce truc-là, ben, ça, moi, ça m'a prouvé que et dans la vie, il faut quand même accepter parfois d'avoir une part un peu de n'importe quoi. J'ai envie d'appliquer le prisme de la Pareto au-dessus, hein, de dire bon, bah, 80% du temps rationnel, 20% irrationnel. Bon, c'est très dur à quantifier, mais il faut quand même accepter une partie à un moment de dire nique sa mère. C'était ma maxime pendant longtemps, c'est nique sa mère. J'y vais, nique sa mère. Je suis pas sûr, vas-y, nique sa mère, j'y vais. Et plus tu vas traverser les âges, plus on va te dire mais non, mais c'est pas une attitude d'adulte de faire ça. Mais en fait, c'est toi, nique ta mère. Toi, avec ta vie de merde, là. Ta vie de merde, tous tes choix de merde par défaut, etc. Tu vas me dire comment vivre ma vie. Écoute, moi, je veux faire des trucs marrants. Pour faire des trucs marrants, il faut accepter d'avoir une partie de pas totalement de maîtrise, de pas essayer de tout questionner, etc. parfois. Alors, vous voyez que je détourne un petit peu le propos initial, hein, qui était de pas trop se poser de questions sur les notions fondatrices de la vie, ce que je recommande aussi parce que ça peut faire des nœuds au cerveau et c'est un puissant fond. Mais je trouve que l'idée derrière est intéressante. Soyez pas tout le temps des matheux, là. Ça fatigue. Voilà. Vous voyez, là, je pars faire une conférence en Thaïlande. J'ai pas réfléchi à est-ce que c'est le meilleur investissement de mon argent, partir à putain de Bangkok, ça coûte une burne. Ouais, j'aurais pu faire une vidéo sur les marques américaines en France, quoi. Mais c'est marrant. Les amis, c'est marrant. Et ça va donner lieu à des expériences qui sont drôles, j'espère. Voilà. Numéro 4, business is not friends. En anglais. Bon, j'ai regardé une petite interview de DJ Snake par le chairman. Je ne reconnaissais pas trop ce podcast, mais par contre, j'aime bien DJ Snake. Et dans ce podcast, il parlait de Cardi B à un moment, donc une collaboration de comment est-ce que les artistes collaborent entre eux. Il prenait l'exemple de Cardi B, qui est venu le rejoindre à Coachella, qui a pris l'avion, qui est venu 2 minutes, qui a fait le show, qui lui a fait un hug et qui s'est cassé. Et la thèse de DJ Snake, c'était de dire, bon, bah, c'est pas grave, c'est du business, c'est comme ça. Et moi, même lui, en fait, il ne voudrait pas que ce soit différent. C'est normal, il ne veut pas avoir à faire copain-copain, etc. Et bah, et en fait, il dit des choses très sages, DJ Snake. Ça se voit qu'il a un background. Les vrais auront la référence. J'ai un vécu, j'ai un background. Eh bien, je pense que c'est une invitation à arrêter de regarder les relations business avec les yeux des relations sociales. C'est un truc qu'on a du mal à faire en France, parce que, en fait, on est obscurci par le fait que c'est possible de faire du business avec des potes. C'est même très bien, souvent ça marche très très bien. Mais ça ne veut pas dire, et c'est là où les gens font une erreur, que tous les gens avec lesquels tu fais du business doivent devenir tes potes. Ou alors que tu ne dois faire du business qu'avec des gens avec lesquels tu peux devenir pote. Ça, c'est un truc avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Vous savez, j'avais pas trop de zone, moi, entre inconnus et amis. J'essaie souvent d'aller faire aller les gens dans l'une ou dans l'autre. Mais en fait, entre les deux, il y a la relation business. Le problème, c'est que si tu fais du business qu'avec des gens avec lesquels tu pourrais être pote, eh bien, tu te fermes une grosse partie des opportunités et en fait, tu comprends pas quelles sont les règles du jeu. T'as pas compris. Comment est-ce que ça marche faire grossir un business? Je prends un petit exemple. Disons que moi, j'ai une marque, de whatever, je vends des trucs en ligne et je bosse avec une usine qui est mon fabricant. Et bah, il y a mon concurrent qui contacte cette même usine, sauf qu'il a 10 fois mes quantités. Et sa seule condition pour travailler avec l'usine, le concurrent, c'est que l'usine arrête de bosser avec moi. Donc là, l'usine me vire. Et bon, bah là, tu prends ton prisme amical, etc. Tu vas dire, attends, mais c'est un fils de pute, ce mec de l'usine, il aurait dû me garder la fidélité. C'est une mentalité qui est très française. On va beaucoup juger ça en mode avec une posture morale là-dessus. Alors moi, je trouve que c'est pas du tout scandaleux, ce genre de situation-là. À la fête, avec un peu d'empathie, tu te mets à la place de la personne qui a l'usine. En fait, elle me doit rien. C'est des affaires. J'ai une personne en face de moi qui va lui apporter 10 fois plus. Ça se trouve, elle est pas moins sympa que moi. Et même si c'est un connard, on s'en fout. Mais en fait, on est dans une opportunité commerciale. On est dans le milieu commercial. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a aucune raison d'avoir des lunettes d'amitié dessus. Et c'est un truc qu'on comprend vraiment pas bien en France, parce qu'on va regarder avec les yeux de l'amitié tout le temps les relations d'affaires. Et on va se dire que c'est pas fine en affaires de ne pas traiter les gens comme des amis, ce qui est une énorme erreur, je pense. Ce qui est important pour moi, c'est de bien mettre les gens dans les bonnes catégories. C'est comme avec vos potes. T'as tes potes proches, t'as les potes dont t'étais proche, mais que t'as un peu relégué dans d'autres cercles. Pour moi, c'est comme ça que tu traverses les époques de ta vie et les nouveaux cercles d'amis qui vont avec. C'est juste que tu rééquilibres à chaque fois. En fait, ce qui est important, c'est de savoir ce que t'attends d'eux. Moi, par exemple, j'ai un standard. En fait, les zones que tu vas avoir pour catégoriser les gens, donc relations business, relations proches, famille, etc., vont avoir un impact, en fait, vont être définies par les attentes que tu vas avoir envers ces personnes. Un truc que je ne tolère pas, par exemple, avec des gens de ma boîte, les employés, c'est le retard. On n'a pas le droit d'être en retard et on a une règle là-dessus, vous le savez si vous suivez Kodak depuis longtemps. Il fut un temps dans le passé où j'avais fait un post LinkedIn sur une personne, une relation business, quelqu'un, ouais, un prestat, je ne sais pas vraiment, c'était un club que je payais. Et la personne est arrivée 30 minutes en retard en déj, et ça m'avait irrité au possible. Donc j'ai failli me casser du déj, je l'avais engueulé, etc. Et tout, elle a fini par s'excuser. En fait, elle avait été très désagréable aussi pendant le déj, notamment sur ce fait-là, elle s'était même pas excusée en arrivant, donc ça m'avait encore plus saoulé. J'avais fait un post LinkedIn pour l'exploser, sans dire son nom, évidemment. Mais elle avait capté que c'était moi, et ça a coupé les relations commerciales. Bon, et il se trouve que j'ai pas perdu grand-chose avec cette relation-là. Mais en fait, moi, ce qui m'embête un peu avec ce sujet-là, et la raison pour laquelle je traiterai différemment aujourd'hui, c'est parce que je ne vais pas avoir ce genre d'attente envers cette personne-là. Je la connais pas, elle me doit rien, je lui dois rien, et puis je m'en fous. En fait, demain, elle a une merde, c'est pas à moi de bouger mon cul. Je n'ai pas le droit d'avoir ce genre d'attente-là avec une personne que je ne paye pas. Peut-être parce que... Il se trouve que je la payais elle, mais ce n'est pas mon employé. Donc elle n'a pas signé un contrat, je vais être en avance. Quand il y a les gens qui rentrent chez Koudak, il y a un contrat moral avec la culture de boîte d'être en avance. Enfin, d'être à l'heure. Enfin, être à l'heure, ça n'existe pas d'ailleurs, vous savez. C'est que soit en avance, soit en retard. Donc je pense que c'est important, c'est juste d'avoir les bonnes attentes envers les bonnes personnes. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas s'énerver avec quand un inconnu... Vas-y, je ne vais pas m'embarquer dans cette voie-là, ça va saouler tout le monde. Mais quand un inconnu n'est pas au courant des sujets qui te sont chers et fait une erreur sur un truc qui t'est propre et dont il n'est pas censé être au courant, ça sert à rien d'avoir des attentes envers lui. Bon, c'est très vague, peut-être que vous aurez lu derrière ce propos-là que c'est un sujet sur lequel je ne veux pas m'exprimer, mais passons. Bon, pour moi, en fait, les vrais conflits là-dessus, ils viennent de quand tu mets les gens dans les mauvaises catégories. Enfin, quand les gens entre eux se mettent dans des mauvaises catégories, ça veut dire que j'ai une relation business, enfin, une personne a une relation business avec moi, mais moi je considère que c'est mon ami. Et donc, moi, c'est là d'où venaient tous les problèmes. C'est-à-dire que je considérais comme amis des gens qui, eux, me considéraient comme une relation business. C'est là où ça crée des genres d'espèces de trahison, etc. Et moi, il y a plein de clients avec lesquels j'ai cru qu'on était potes. Et ça m'est arrivé assez récemment d'ailleurs avec des clients historiques sur lesquels il y avait un truc, on avait un sujet sur la facturation, on parlait d'un sujet où ils trouvaient que c'était un truc qui était cher, etc. Donc, je les appelle pour en parler. Je leur demande d'en savoir plus et je leur dis, bon, écoute, enfin, je leur dis plein de trucs comme si je parlais à mes potes dans le call. Ouais, on va régler ça et tout, etc. T'inquiète, bon, de toute façon, on est potes. Je ne vais pas te le mettre à l'envers. Enfin, je ne l'aurais pas non plus fait avec un client, mais en gros, la question, je leur parle vraiment comme à des potes. Je ne prends pas les formes, etc. Comme j'aurais appelé, en fait, des amis. Et derrière, en fait, ces personnes-là s'en sont servies dans un mail avec des quotes de ce que j'avais dit. Et du coup, forcément, c'était des trucs qui n'étaient pas léchés. Il y avait une petite virgule en trop, je sais pas, un mot qui pouvait laisser prêter à confusion, etc. En mode, Théo nous a dit qu'il allait corriger ce truc-là et nous donner tant d'argent, etc. Et là, je suis tombé des nues. J'étais en mode, ah, c'est ça. Et en fait, c'est pas leur faute, c'est ma faute. Ma faute, c'est d'avoir cru que c'était mes amis. Et quand elle croyait que c'est... En fait, on était des... Putain, moi, j'ai dit elle. Quand le client croyait qu'on était des relations business, juste voilà. Donc en gros, ça va très bien, ça m'a juste recadré. C'était une relation business, désormais j'entretiens des relations business avec les gens, ou alors je m'assure quand on a des relations amicales que c'est une relation amicale partagée. Et il y a aujourd'hui des clients avec lesquels c'est le cas, et je fais attention sur ces trucs-là. Voilà, donc le business, c'est pas l'amitié, et c'est totalement normal, il n'y a pas de posture morale à avoir là-dessus. Vous pouvez y mettre de l'amitié, mais il y a plein de gens qui décideront de ne pas en mettre avec vous, et c'est totalement fait. Point numéro 5, mettre la main dans le feu. Bon. Vous savez, mon travail aujourd'hui là chez Koudak, c'est de faire le marketing de la boîte, gérer la vision, faire le management, mais aussi m'occuper des nouvelles initiatives. Et donc, nous, ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est le lancement des nouvelles agences. Et donc, mon travail, c'est de les mentorer. Je les vois toutes les semaines, chacun. Dans l'onboarding de ces nouvelles agences, il y a un truc qu'on voit se produire tout le temps dans les 3 à 6 premiers mois de la vie d'une agence, c'est le premier mauvais recrutement. Donc, on pourrait s'attendre à ce que Koudak, en tant que bon mentor, se dise « Bon, bah écoute, moi, je suis là, je vais t'empêcher de faire ton premier mauvais recrutement. » Et forcément, naturellement, on va avoir envie de le faire. Mais on a compris, à force de mentorer des personnes, et à force de se rendre compte de comment est-ce qu'on avait appris des trucs, vraiment des leçons qu'on avait ancrées profondément chez nous, que le travail d'un coach, c'est pas d'empêcher une personne de se tromper. J'aime beaucoup, il y a une citation, je me souviens plus de qui c'est « Si je devais revivre ma vie, je referais les mêmes erreurs, mais plus vite. » Je pense que c'est exactement ça. Ton travail, c'est d'emmener la plus vite possible la personne vers les erreurs, et de faire en sorte que chaque erreur ne le tue pas. Donc chaque erreur le rende plus fort. Et c'est ça le travail d'un bon mentor, je pense, d'un bon coach. C'est de... Je vais penser forcément à une allégorie qui est celle de la salle, de sport. Quand tu as un coach à la salle, le but, c'est pas qu'il te mette que des poids que tu peux soulever. Parfois, il doit t'emmener à l'échec. Et il fait son bon travail de coach. C'est ça. Et donc, c'est ça que je veux dire par se mettre la main dans le feu. Je pense qu'il y a des leçons que tu ne peux apprendre que par l'expérience. Et donc, que en mettant ta main dans le feu pour comprendre que ça brûle. Et bien sûr que ta grand-mère ou ta mère... j'ai dit ma grand-mère parce qu'il y avait un feu chez ma grand-mère. Et elle t'avait dit de pas mettre ta main dans le feu. Et toi, tu t'en doutais. T'as vu, t'as approché, t'as vu, c'est chaud. Putain, mais t'as approché, t'as dit, ah putain, ça brûle. Quand on t'apporte une assiette et qu'on te dit c'est chaud, bah tu vas toucher pour savoir si c'est chaud. Tout le monde fait ça. Pourquoi on fait ça? C'est con. On t'a dit que c'était chaud. T'as besoin quand même de vérifier. Ah peut-être qu'elle pense que c'est chaud, mais en fait c'est pas chaud. Ah putain, donc okay, c'est vraiment chaud là. Je me suis cramé. Vous voyez, il y a des choses comme ça que l'humain est obligé d'apprendre par l'expérience. Et parce qu'en fait, cette expérience, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va t'ancrer l'expérience, enfin t'ancrer la leçon beaucoup plus profond que si tu l'écoutais juste parce que quelqu'un t'a recommandé de le faire. C'est pour ça que moi j'aime pas trop prendre des conseils de manière générale sur des trucs que j'ai pas fait. Ah, tu devrais recruter comme ça. Je n'ai pas encore eu l'échec de ma méthode d'avant. Tu vois, donc pour moi c'est pas vraiment du coaching ce que tu fais. Limite, en fait j'aimerais bien qu'on m'emmène le plus vite possible vers l'échec de ma méthode pour que je comprenne qu'il y en a une autre qui est mieux. Et souvent les leçons que j'ai le mieux intégrées c'est quand j'avais fail sur quelque chose et que j'allais chercher la solution à pourquoi j'avais fail. Voilà, donc mettez-vous la main dans le feu, les amis. N'oubliez pas. Ne cherchez pas à éviter les erreurs. Ça sert à rien. Essayez pas de suivre des trucs comme des commandements. Et si vous voulez, je vous en donne quelques-unes des erreurs que vous allez passer en tant qu'agence sur lesquelles vous devrez mettre la main dans le feu. Il faut que vous ayez une frayeur de trésorerie. Il faut que vous ayez un conflit avec un employé. Il faut que vous ayez un premier licenciement. Il faut que vous essayiez de vous défocus en vous disant que vous êtes un génie et que, ouais, on va lancer une formation. Ça va être génial. Tu vas voir, ça va être un revenu complémentaire. On va rien faire. Fais le beau gosse. Bon courage. Numéro 6. Un bon taf rend le travail indistinguable du fun. Bon, les amis, vous savez, moi, j'ai fait le choix de dédier mes efforts à mon taf. 100% de mes efforts, de mon énergie de la journée. Donc, j'ai dû me poser la question de qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon travail. Quel est le résultat que j'attends de tous ces efforts que j'attribue à mon taf? Donc, j'avais des premières pistes, forcément, comme tout le monde. Je me suis dit, bah, il faut que je gagne beaucoup d'argent. Donc, je commence à gagner un peu d'argent. Je gagnais mes 10 000 euros par mois. J'étais content. Et après, je me suis dit, bon. Donc, ça n'a pas fait une énorme différence sur mon niveau de bonheur par rapport à quand je gagnais rien. Tiens. Peut-être pas ça. Donc, je me suis dit, il y a une voie qui s'offre à moi, la voie de l'infoprenariat, qui pourrait me faire gagner énormément d'argent. D'ailleurs, putain, à la Linker House, beaucoup des créateurs de contenu LinkedIn vivent de l'infoprenariat. Et je peux vous dire qu'ils regardent nos revenus et ils se foutent de notre gueule. Hein. C'est vraiment des gens qui gagnent énormément d'argent. Centaines de milliers d'euros pour eux, c'est tous les mois et tout seul. Donc, voilà, très impressionnant. Mais moi, j'ai choisi de pas aller dans ce truc-là. Je me suis rendu compte d'abord qu'en fait, ce que je voulais, c'est la croissance de ma boîte. Donc, j'ai suivi cette seconde voie, la croissance de la boîte. C'est cool. Et à un moment, on a eu plus de croissance. Je me suis dit, attends, c'est marrant, je suis pas très heureux et tout. C'est quand même pas ouf de conditionner mon bonheur à la croissance de ma boîte. Et donc, putain, je me suis posé la question qui m'a amené vers forcément la direction vers laquelle tout le monde est renvoyé à chaque fois. C'est quelle est la qualité du chemin vers ma destination? Donc, ma destination, c'est la croissance, 10 millions, etc. Quel est le chemin que je suis prêt à accepter pour ça? Et donc à la Linker House, ce week-end était super, dans des conditions de ouf, avec des gens très sympas, j'ai réalisé que le but, je pense que d'une carrière bien menée, c'est de travailler assez dur pour faire en sorte de rendre indistinguable le fun et le travail. Quand je me disais, j'étais à la Linker House, et je me disais, mais putain, mais je suis vraiment en train de travailler. Théoriquement, c'est du temps de travail. En fait, on a travaillé pour ça. C'est ça la vie de Linker. Ok, bon, bah c'est sympa. Alors, c'est pas du taf intense, certes, il y a d'autres moments où je travaille plus dur sur des trucs, mais c'est une externalité positive d'avoir travaillé dur, et surtout, d'avoir recruté les bonnes personnes. Je fais un petit aparté là-dessus. Je vais vous écrire un post, d'ailleurs, LinkedIn dessus. Ça, vraiment, c'est... En fait, je me suis rendu compte que mon top 5 décisions de Kodak, ça a toujours été des gens, 100%. Chaque fois, tu peux les remonter à avoir choisi les bonnes personnes. Donc, en fait, c'est des décisions que j'ai prises sur des gens qui ont derrière, en fait, que prendre des décisions de ouf. Quand tu recrutes quelqu'un qui prend des bonnes décisions, en fait, ça compound tellement fort. Beaucoup plus fort qu'une décision que tu aurais pu prendre toi-même ou d'un truc que tu aurais pu faire toi-même. En fait, c'est d'ailleurs assez dur, et je vous en parlais dans les épisodes précédents, de comprendre que quand tu es un CEO, ton travail, c'est de faire que des trucs qui compoundent. Tu n'as pas le droit d'aller... Tu lances une formation et tu vois que c'est pas ouf et tu l'aurais mieux fait, tu n'as pas le droit d'aller le faire. Tu dois trouver quelqu'un pour le faire. Parce que ça va compoundre. Parce que tu ne pourras pas faire ton truc éternellement, sinon tu mets la boîte dans la merde. Donc, on ferme cette parenthèse. En gros, je pense juste qu'il ne faut pas confondre le travail et le fun. Mais je pense qu'un bon taf doit te permettre d'en tirer les deux. À la fois la plénitude d'avoir un travail qui te fait progresser. Moi, j'ai ça aujourd'hui avec le chiffre d'affaires qui monte. Mais aussi la possibilité, par exemple, d'aller en Thaïlande avec mon travail. De faire une Linker House. De faire des trucs cool, de faire des soirées avec les collègues, de bien m'entendre avec eux. Et voilà. Donc, essayez de... Enfin, je vous parle de ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont renoncé à ce truc-là. Qui ont associé le travail avec tripalium, la souffrance, le truc en latin de s'il n'y a pas souffrance, il n'y a pas de travail dur. Alors, travailler dur, c'est cool, et c'est important, parfois ça va venir avec de la souffrance, vous savez, c'est comme à la salle, hein. Je prends toujours le même exemple, mais il faut se faire souffrir pour avoir des gros muscles, le running, même chose, Mais il faut aussi comprendre que bah, peut-être que les gens que tu vas rencontrer à la salle, c'est cool, ça pourra faire des partenaires, enfin, ça pourra faire des potes, les gens avec lesquels tu vas courir la même chose. Et que tu peux tirer les deux, en fait. Et si tu peux pas, si tu ne peux dériver que de la souffrance ou de la monnaie, quoi, enfin, de l'argent de ton travail, c'est qu'il y a tout un pan que tu vois pas, je trouve. Donc, chercher, ça existe. Numéro 7. Les mecs débiles sont d'accord avec les mecs très intelligents. Alors ça, c'est une citation de Joe Cariz. J'ai vu dans une vidéo, je sais pas pourquoi j'ai cliqué là-dessus, j'ai vécu des vacances il y a quelques jours, enfin ce week-end, je regardais des vidéos YouTube que je regarde pas d'habitude, là c'était quoi? C'était Joe Cariz avec un autre mec qui faisait la review de trader sur internet. Et dedans, il disait qu'il avait regardé la vidéo d'un mec sur TikTok, qui racontait nimp, avec une justification n'importe quoi, mais qui disait des trucs vrais. Et donc le mec l'a dit un truc très intéressant. Il dit qu'en fait, les gens débiles sont d'accord avec les gens très intelligents. Et j'ai trouvé que c'était une bonne punchline, qui est certainement pas de lui, mais que ça méritait d'être creusé. Donc, pour moi, c'est comme la courbe de croissance à la salle. Quand tu découvres la salle de sport, putain, j'ai que des exemples de sport, je suis vraiment un gros muscu. Bon, c'est quand même une grosse partie de ma vie, donc c'est ça qui me vient le plus vite possible. Au début, tu apprends à faire des trucs simples. Bon, tu dis, écoute, je vais faire les exos simples, développé militaire, développé couché, des trucs de base, quoi. Tu chopes tes premiers progrès, après, tu te dis, bon. Je vois les gens sur YouTube, etc. Ils font des techniques d'intensification, superset, dropset, nickton set. Et donc, tu vas complexifier. Et après, quand tu complexifies, tu te rends compte que finalement, tout l'effort que tu as attribué pour essayer de complexifier ta méthode, tu n'as pas apporté les résultats supplémentaires, mais ça t'a apporté un truc. C'est de comprendre qu'en fait, c'est les trucs simples qui marchent. Et donc, tu te retrouves à penser ce que tu pensais au début. Et ça fait que vous voyez que sur cette courbe-là, le mec au tout début pense pareil que le mec à la toute fin. Ou alors pas très loin, disons. Et c'est pour ça que je trouve plus intelligent quand tu écoutes quelqu'un de savoir quel est le raisonnement derrière son idée que sur son idée. C'est pas juste avoir la bonne réponse qui compte. Parce qu'elle ne permet pas de juger la capacité de quelqu'un à trouver les bonnes réponses d'après. Et c'est ça, vous voyez, quand vous trichez un contrôle, vous avez la bonne réponse, mais vous avez la bonne note. Vous avez 20 sur 20, mais vous avez le même 20 sur 20 que la personne qui a révisé pour avoir son 20 sur 20. Et pourtant, vous n'avez pas la même qualité de personne derrière. C'est comme une personne qui est millionnaire, en gagnant l'auto versus un millionnaire en étant entrepreneur. Donc, faites attention. Ce qui est intéressant, c'est pas juste ce que les gens pensent, c'est pourquoi est-ce qu'ils le pensent. Et il y a des gens qui ont de la chatte, quoi. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais il y a plein de situations dans lesquelles c'est assez compliqué de séparer un mec débile d'un mec très intelligent, parce qu'il peut penser des trucs assez similaires. Voilà. Numéro 8, alors j'ai pas écrit grand chose dans mes notes. Ici, c'est pricing et projection. Ça vient juste du fait qu'on a. C'est Linker, il y a eu un appel d'offres auquel on a répondu sur une prestation qui était facturée très cher. Et globalement, c'est accompagner un incubateur, enfin très cher, à un bon prix par rapport à la valeur, surtout parce que la valeur qui était dans la présentation, c'est pour ça que je voulais vous en parler, était énorme et donnait du sens au pricing. Donc en gros, quand tu vends, il y a différentes façons de vendre un service. Soit tu vends un service par ses fonctionnalités, soit tu le vends par sa promesse. Et là, ce qui était stylé, c'est que c'était pour un incubateur français à qui, au lieu de dire vous allez devenir l'incubateur le plus stylé, le plus visible sur LinkedIn, le but c'était. Et c'est pour ça que je trouvais ça génial parce que c'est comme trouver le point de tension dans une dissertation et celui qui va te délier tout le raisonnement et qui va faire que tu vas avoir 20 sur 20, c'est de les faire devenir le YC français. Et j'ai trouvé ça trop smart parce que la valeur perçue à devenir le YC français est bien plus grande que la valeur perçue à être un incubateur qui fait des posts LinkedIn. Et ça fait que derrière, le pricing de ce que tu fais, qui vaut totalement ce que tu fais, va être mieux accepté. Et c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment réagir à l'objection. C'est trop cher. Le problème, c'est que les gens, ils savent pas décortiquer des sujets. Ils savent pas trouver c'est quoi les putains de problèmes profonds d'une personne, apporter une solution hyper précise, hyper ambitieuse, donc avoir de l'ambition pour quelqu'un, faire le projeter, et ensuite donner le pricing qui correspond à la valeur de cette projection. La valeur de devenir le YC français, et donc de délivrer la promesse que promet Linker, est énorme et monstrueuse. Devenir le YC français, ça vaut des milliards en fait d'avoir cette bande-là. Et donc, si tu arrives à devenir ne serait-ce qu'un dixième du YC français, derrière, je peux te facturer, on dit que ça vaut 100 millions, un dixième, derrière, je pourrais te facturer 10 millions, ça serait toujours bénéfique pour toi, en fait, en termes de valo. Et donc, c'est pour ça que les gens qui gagnent le plus d'argent, souvent, c'est ceux qui vendent aux gens riches, c'est ceux qui plus précisément résolvent les problèmes des gens riches, les problèmes qui valent le plus d'argent. Et souvent, ça va être au même endroit, ça va être les problèmes des boîtes les plus riches. C'est pour ça que les cabinets de conseil arrivent à facturer les missions les plus chères, parce que c'est les plus gros problèmes, ceux qui valent le plus d'argent, quand tu vas attaquer un marché, comment tu vas racheter une boîte, etc. Sur lesquels tu peux facturer des missions très chères. Moi, demain, je ne peux jamais facturer une mission à 100 millions. Enfin, bon, peut-être pas 100 millions, je force un peu, mais des missions à plusieurs millions, à des boîtes qui font à peine ça en chiffre d'affaires. Voilà. Et je vais terminer cette partie pendule à l'heure avec quelques lois qui confirme certaines de mes pensées. C'est la prod du numéro 9. Mais bon, ces idées ne sont pas de moi, ça vient de la newsletter que bon, je vais rajouter dans les ressources, sinon vous allez m'enculer. Une newsletter de Gurvinder Bogal. Alors celui-là, si vous arrivez à l'écrire, bon courage, ça m'étonnerait. Gurvinder Bogal, que j'ai découvert dans Modern Wisdom. Il y a 4 effets que je trouvais cool. Le premier, c'est l'effet de bulle du débutant. Épictète disait, on ne peut pas apprendre ce que l'on croit déjà savoir. Et donc, ça dit quoi en gros cet effet-là? C'est que les personnes les plus ignorantes ne sont pas celles qui ne savent rien, mais celles qui savent un peu. Car un peu de savoir donne l'illusion de comprendre, ce qui tue la curiosité et ferme l'esprit. Alors les amis, je vous avais parlé de accepter le point de départ, vous vous souvenez? Ça pour moi, en fait c'est la traduction intellectualisée de ce que j'essaie de vous dire, de cette réflexion empirique. Comme quoi vous voyez, je pense qu'il pourrait y avoir un peu un corollaire de ce podcast-là qui est la justification intellectuelle des trucs que je constate empiriquement. Donc ce truc-là, pour moi, je trouve ça cool. Et ça me fait plaisir d'avoir ces instincts qui parfois sont confirmés par des théorèmes. Enfin, des trucs mieux expliqués par d'autres personnes intelligentes. Donc la première étape, vous en tirez quoi? Si vous voulez progresser dans quelque chose, acceptez que vous êtes une merde. Si vous n'acceptez pas que vous êtes une merde, vous allez être capé. Vous en rendrez même pas compte. C'est comme, vous savez, pour quitter un taf, il vaut mieux avoir un taf où c'est vraiment la merde qu'un taf où c'est vite fait. Plus dur à quitter un taf où c'est vite fait qu'un taf où c'est vraiment la merde. Parce qu'il y en a un dont tu veux t'échapper. Numéro 2 s'appelle le sécuritarisme. Alors, je vous le lis. Après que les écoles américaines ont interdit les arachides parce que certains enfants étaient allergiques, davantage d'enfants ont développé des allergies aux arachides par manque d'exposition. Conclusion quoi ? Nous protégeons de plus en plus les enfants de la vie, ce qui ne fait que les rendre plus vulnérables. Trop de sécurité est dangereux. Bon, alors là, c'est sur les enfants. Mais de manière générale, vous pouvez l'étendre assez facilement. Si vous ne faites plus de trucs durs dans votre vie, vous devenez un gros fragile. Voilà. Et puis, plus sensible aux maladies, si vous mangez mal, etc., si vous ne vous respectez pas. Vous devenez une loque, quoi. Donc, trop de sécurité tue la sécurité. Toute l'ambivalence du confort. C'est pour ça que j'essaie de faire très attention à son mode de vie quand on gagne de l'argent. J'essaie de rester assez simple. Dis le mec qui a un appart avec un rooftop, mais bon, il fait froid, je ne peux pas aller dessus. Mais ma déco, ceux qui sont déjà venus chez moi le savent, normalement, c'est une grande minorité des gens qui écoutent ce podcast. C'est assez minimaliste. J'ai un canapé, quoi. J'ai un canapé, une télé qui ne marche pas. Un lit bien confort pour le coup, mais voilà, faut pas s'endormir dans le confort, même si c'est important de le faire progresser au fur et à mesure. Faut bien comprendre que vous savez, on a deux loups en nous, un loup qui veut du confort, un loup qui veut hustle et accomplir des choses grandes. Celui qui gagne, c'est toujours celui qui nourrit le plus. Donc si tout ton environnement est hyper confortable, etc., tout le temps, bah forcément tu vas pas avoir envie d'aller faire des trucs durs. Voilà. Numéro 3, c'est le problème de la brosse à dents. Donc on est toujours dans la pente du numéro 9, hein. Je dis numéro, mais c'est le numéro 3 de la 9. Les psychologues traitent les théories comme des brosses à dents. Aucune personne qui se respecte ne veut utiliser celle d'un autre. Je trouve ça trop stylé, parce que moi je pense que je suis tellement victime de ce truc-là. Je déteste penser un truc qu'un autre a pensé. C'est une faute intellectuelle. Hein. C'est parce que c'est pas pensé par soi-même, ça. C'est l'inverse, en fait. Justement, c'est penser contre les autres. Je vous ai déjà dit, hein, l'ambivalence du mot contre. Les théoriciens sont incités par leur ego et les pressions professionnelles à trop se fier à leur propre théorie, de sorte qu'ils ignorent souvent les meilleurs modèles au profit des leurs, les appliquant de plus en plus largement, les contorsionnant jusqu'à ce qu'ils soient déformés. Bon, voilà, bref, ce qui est important, c'est, je vous l'ai dit, hein, dans la pensée claire, c'est d'avoir assez de confiance en soi pour accepter le théorème de quelqu'un d'autre. Vous pouvez emprunter, en d'autres termes, vous pouvez emprunter la brosse à dents des autres, c'est fine. Et la dernière chose, c'est la loi de Goodhart. Alors ça, là, vous allez voir, j'en ai parlé au tout début. La loi de Goodhart, c'est quoi? C'est lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Tiens, tiens, tiens. Ça me fait penser à quelqu'un. Depuis que les écoles ont commencé à utiliser les résultats des tests comme objectif, elles ont progressivement cessé d'enseigner aux enfants comment vivre une vie épanouie. Et leur enseignent désormais principalement comment réussir les tests scolaires. Ben voilà. Les amis, vous avez tout. Le but de l'école, c'est pas d'avoir des bonnes notes. C'est d'être formé à la vie ou à la vie professionnelle. Enfin, de devenir un meilleur être humain, quoi. Et ça fait une grosse différence d'avoir un enseignement qui s'optimise pour ça versus un enseignement qui s'optimise pour réussir des examens. On passe à la suite. C'est la fin de la section Les Pendules à l'heure. On va passer au meilleur de la semaine. J'ai deux contenus à vous partager cette fois-ci. Et le premier, je vais le mettre sur mon téléphone pour que vous puissiez l'entendre dans mon micro. C'est un contenu d'un mec là, avec une grosse beubarde qui donne des conseils sur la musique et qui fait pas de musique. Oh putain, j'ai 9 appels manqués. T'es un livreur, ça, non? Oui. Ok, il m'a appelé 9 fois. à 15h09. Merde. C'est les cadeaux de Noël, ça. Bon, bah, à cause de vous, il y aura un membre de ma famille qui n'aura pas de cadeau. Tant pis pour sa gueule. Ah, je vous le fais écouter. Faut parler anglais, par contre, les potes. Hein. Et si vous voulez parler, si vous parlez pas anglais, c'est pas mon problème, vraiment. The audience comes last. And I believe that I'm not making it for them. I'm making it for me. And it turns out that when you make something truly for yourself, you're doing the best thing you possibly can for the audience. So much of why, if you go to the movies, so many big movies just not good. It's because they're not being made by a person who cares about it. They're being made by people who are trying to make something that they think someone else is going to like. And that's not how art works. Art doesn't, that's something else. It's not art. That's commerce. So if we're making art, we're making, it's almost like a diary entry. So it can someone, could I be concerned that someone else might not like my diary entry? It doesn't make sense. You know, it has nothing to do with them. My diary entry has nothing to do with anyone else. So everything we make as artists are essentially diary entry.
Bon, alors les amis, c'est le truc le plus beau que j'ai écouté de ces dernières semaines. C'est génial parce que ça résout le dilemme entre faire des choses authentiques et répondre au marché. Il faut bien savoir quand est-ce que tu te situes du côté de l'art et quand est-ce que tu te situes du côté commerce. C'est pour ça que c'est très très dur d'être un entrepreneur et créateur de contenu et que ça marche pas. Souvent, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très authentiques. Je trouve que c'est très dur parce que tu dois faire vivre en toi deux types de personnes. Le commercial, celui qui utilise son contenu pour faire grossir sa boîte, et l'artiste, celui qui fait du contenu pour se satisfaire lui-même et plaire à l'audience, quoi, simplement. Enfin, mais pas, du coup, c'est pas ça. C'est pas plaire à l'audience, mais c'est donner un contenu qui est authentique. Ce que je trouve stylé, c'est, vous voyez ce qu'il dit dedans, il dit, de l'art, c'est une entrée dans un journal intime. Et en fait, ça sert à rien de, quand une personne arrive et te dit ton journal intime, c'est de la merde, bah, tu comprends pas, ouais, mais c'est mon journal intime, en fait. Genre, qu'est-ce que, ça n'a pas vocation à être jugé de la sorte. C'est pas un produit commercial, je vais pas le juger sur est-ce qu'il te plaît ou pas. C'est mon journal intime à moi. Donc, la meilleure façon d'être altruiste dans cette création de contenu, c'est de faire En gros, c'est de faire pour soi-même. C'est paradoxal, hein. Il ne faut pas tomber dans le piège de faire ce qui marche, parce que c'est toujours la même chose. Hein, on peut répondre facilement à comment est-ce qu'on fait une chaîne YouTube qui fonctionne. Bon, bah, tu fais tel format, une accroche, un montage épileptique au début. Il faut que tu fasses MrBeast, qu'il y ait de l'intrigue jusqu'à la fin, etc. Mais en fait, il faut avant tout le faire pour toi-même. Il ne faut pas oublier qu'on est des artistes. Quand tu produis du contenu, il y a une partie artistique. Il faut l'accepter. Et pour moi, c'est la meilleure façon de déplacer le centre, pour reprendre du coup les mots de Vincent Cassel que je vous avais mis dans l'épisode précédent, enfin dans un épisode d'avant. C'est de, en fait, faut se regarder le nombril, les potes. Faut faire ce que vous kiffez, faire ce que vous kiffez profondément et avoir une petite idée derrière de. Faut que dans ce que vous kiffez, il y a une partie de ça fait kiffer les gens. Pas qu'il y en ait zéro, sinon vous devenez juste un mec bizarre. Et encore une fois, la vérité se situe ni dans un extrême ni dans l'autre, elle est dans la nuance. Donc. Le message, c'est « The audience comes last ». Je sais plus comment il s'appelle, ce mec-là. C'est un mec qui a une grosse beubare, là, qui a conseillé Jay-Z, etc. Apparemment, c'est lui qui a fait le « I've got 99 problems, but the bitch ain't one ». Je crois que c'est lui. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est magnifique. Rick Rubin, c'est ça. Je trouvais ça magnifique. Voilà. Second contenu que je voulais vous partager cette semaine, c'est une interview que j'ai regardée sur la chaîne Bros Stories de Thierry Henry et Antoine Dupont, qui sont deux champions et qui discutent pendant une heure. Et j'ai trouvé très intéressant cet échange parce que bon, bah, y a plein de leçons hyper cool, inspirantes. Moi, j'adore écouter des sportifs parce que c'est des gens qui n'ont pas fait des grandes études intellectuelles académiques et qui, en fait, pensent, te donnent des pépites d'empirisme, de praticité, qui parfois sont plus pertinentes que celles des penseurs ou des scientifiques sur des thématiques en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que mentalement, quand tu regardes avec le background, disons, de ce qu'on nous a appris, de qu'est-ce qu'une personne qui pense, qui est mentalement saine, une personne qui l'est un peu moins, il y en a un qui est beaucoup plus sain que l'autre. c'est Antoine Dupont, hein, clairement, qui est beaucoup plus à l'aise dans l'échec, etc. et tout, que Thierry Henry, qui faisait du sport pour satisfaire son père, etc. Mais après, la seconde grille de lecture, c'est que bon, il y en a qu'un, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul des deux qui est champion du monde. et c'est Thierry Henry. Et donc, en fait, cet échange, ça m'a confirmé un truc, c'est que l'excellence, quelle qu'elle soit, c'est malheureusement pas un truc de mec équilibré. Il faut accepter d'avoir un énorme déséquilibre. Ça sert à rien de dire à un sportif ou à quelqu'un qui va être excellent, mais non, mais fais preuve de balance. et une vie équilibrée, en fait, c'est incompatible avec l'exercice. De quoi tu me parles? C'est de balance. Pourquoi? Pour être un mec balancé, pour être un mec équilibré comme tout le monde, ça ne m'intéresse pas. Il faut accepter d'avoir une surpondération dans quelque chose. Et c'est aussi très rare, en fait, d'avoir des champions qui sont bien dans leur peau. C'est pour ça aussi que c'est hyper intéressant un personnage comme Antoine Dupont. C'est que c'est un mec qui a gagné plein de trucs et qui a l'air équilibré, mature, etc. Et c'est un mec qui est très admirable sur cette partie-là. Je le trouve ouf. Parce que j'en ai pas vu beaucoup des champions comme ça. Il fait beaucoup penser à Victor Wembanyama dans son expression. Alors, Victor Wembanyama, c'est parce qu'il est très jeune et hyper mature. Mais en fait, je crois qu'Antoine Dupont a 27 ans. J'en ai 26. Et c'est inspirant, je trouve, d'avoir quelqu'un comme ça. Donc voilà, c'est des personnalités que j'admire beaucoup, que je vous recommande d'écouter à foison. Et j'ai 8 minutes pour répondre aux questions. Alors, mon rendez-vous démarre. Je vais vous prendre. Alors, on va aller dans les archives. Donc, suivez-moi bien sur Instagram, hein, à théo.le.lyon, pour tout avoir. Archives. Story. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, prenons vos questions. Il y en a énormément. Il y en a énormément, je vais en prendre 2 ou 3. Ton avis et tes conseils sur la fiscalité en France pour les jeunes entrepreneurs, Wolf2.as. Mon avis, c'est que tu n'es probablement pas assez riche pour devoir te poser sur la fiscalité en France. Bonne journée. Je m'en branle. Enfin, je vous dis, moi, ma stratégie, c'est pas de minimiser les coûts, c'est de maximiser les revenus. Et je ne partirai pas de France, du moins pas avec les données que j'ai aujourd'hui, parce qu'il y a trop de choses auxquelles je suis attaché. Ma famille, en particulier, et mon groupe d'amis. Il y en a plein. Madame J'aime, je t'embrasse. Comment tu gères le télétravail et uniquement des objectifs, et quand ça va pas? Tout ce qui touche l'humain, les ressources humaines, le management qui le fait, et toi, on te voit jamais quand c'est dur. Or, j'imagine que ça l'est parfois. Alors, les amis, vous me voyez quand c'est dur. Hein. Je vous partage tout, ici. C'est pas plus dur, il n'y a pas de moment pire que ce que vous voyez ici. Je vous dis quand c'est chaud. Bon, évidemment, je vous montre pas les dingueries, dingueries perso, un peu comme de pudeur dans ce format. Et je vous parle des moments durs. Donc, comment je gère avec le télétravail? Ben, en fait, le télétravail, les gens voient ça comme une isolation. Mais le travail, en fait, non, pas du tout. C'est une libération du temps et une prise de contrôle sur ton temps. Après, t'en fais ce que tu veux sur ton temps. Il y a des gens qui veulent rester chez eux et rien foutre. C'est bien pour les introvertis. Mais tu peux aussi l'utiliser pour voir plein de personnes. Il n'y a pas que le travail pour rencontrer des gens. Tu peux voir tes potes d'avant, tu peux faire plein d'autres potes, voir les potes de potes, sortir des trucs, voyager, etc. Donc en fait, j'ai aucun problème de solitude avec le télétravail. Vraiment pas. Tout ce qui touche l'humain, les ressources humaines, le management qui le fait, bah, j'ai une RH, il y a des managers. En fait, ça fonctionne comme une boîte classique. Et ce qui est dur, en fait, pourquoi est-ce que des gens peuvent se sentir seuls en télétravail? C'est parce qu'ils n'ont pas compris les nouvelles contraintes que ça posait. C'est que, encore une fois, tu vas sortir du mode par défaut. Si tu veux rencontrer personne, tu rencontreras personne. Tu as la possibilité de le faire. Parce qu'avant, on pouvait te forcer à venir au travail. Bon, bah, tu vas voir des gens dans tous les cas. Mais là, tu as le choix de voir personne. Donc, c'est une invitation à l'intentionnalité. Et il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Tant pis pour eux. L'épisode, tu le prépares toujours façon col de prépa. Élie, ah, c'est une très bonne question. J'avais fait ça au moment où je passais 30 minutes. Non, je passe un peu plus de temps maintenant. Je passe une heure et demie pour faire le tri dans mes notes, vous écrire des trucs et tout, etc. Ouais, quand même pas avoir des dingueries. Sympa. Parce qu'il y a quelques épisodes dont je suis pas très fier, où je suis parti un peu en couille dans tous les sens. 30 minutes, c'est pas assez. Et surtout, que, comme je fais des pendules à l'heure, en fait, j'ai besoin de vous structurer plusieurs raisonnements sur plusieurs choses. Donc, vous devez avoir 2-3 idées importantes. Donc, je vous écris, j'ai des bullet points quand même, des trucs que je veux pas oublier. Et en fait, voilà, je le regarde quelques fois pendant l'épisode, mais j'essaie de partir en freestyle le plus possible. Juste, ça me permet de rien oublier. Salut l'artiste, tu as dû faire face à des impayés avec Kodak, comment tu gères ça? Bien sûr que oui, ça c'est la malédiction des agences, c'est la malédiction de la France, c'est qu'il y a une impunité aux impayés de faible montant. J'ai eu des impayés, j'ai eu la chance d'en avoir très tôt. Ah oui, ça fait partie des leçons à apprendre le plus vite possible. Avoir son premier impayé, c'est un peu lié au problème de trésor dont je vous parlais. Mais, attends merde, où est-ce que j'en étais? J'ai reçu des messages en même temps, là. Ça commence à s'exciter pour le call de 16h. Faire face à des impayés avec Kodak, comment tu gères ça? Bon, bah, les impayés, écoutez, c'est très simple. La plupart du temps, une personne ne paye pas parce que tu ne lui as pas rappelé. C'est scandaleux, on peut insulter les gens autant qu'on veut, mais la première chose, c'est d'avoir un process de rappel. La seconde chose, c'est de bosser avec des gens qui n'ont aucune casserole sur le sujet. Est-ce que le mec ne te semble pas fiable? Tu fais payer des acomptes, etc. Aucun scrupule là-dessus, sinon tu vas payer ta lâcheté, toujours. Et ensuite, c'est d'être intransigeant quand une personne te fout de ta gueule. une personne se fout de ta gueule, bah écoute, elle entre dans, t'as plus aucune raison d'être sympa avec la personne, donc en fait tu rentres en conflit. Il faut être prêt à aller en guerre parfois. Donc moi, tu me prends pour un con, je vais te prendre plus pour un con. À jouer au con, c'est toujours moi qui vais gagner, parce que j'ai gardé mon âme d'enfant. Donc il faut traiter les gens comme ils méritent, parce qu'ils sont pas habitués en fait à se faire traiter comme ça. Ils pensent qu'il y a une impunité là-dessus. Donc quand tu les menaces de quelque chose qui peut leur faire mal, eh bien ils parlent chinois. Voilà. J'ai aucune pitié là-dessus pour les mauvais payeurs. Vraiment, j'ai appris à l'avoir, mais encore une fois, en mettant les mains dans le feu plusieurs fois. Tom Arnaud, c'est la dernière question que je vais prendre. Tu es tout seul à gérer tes réseaux. Alors, Instagram, ouais, c'est moi qui gère totalement, sauf la publication des Reels, qui sont montés par Lucas, que j'embrasse, et qui sont programmés directement. Mais sinon, je suis seul à avoir accès à ma messagerie, mes stories, etc. Et c'est toujours moi qui poste. Ouais, j'attends pour une autre, elle est vite celle-là. Salut boss, que penses-tu des gens qui, après avoir traîné quelques temps en agence, décident de lancer leur propre agence? Parce que pourquoi ça floppe autant? Y a-t-il des do's and don'ts? En fait, le problème, c'est que souvent, c'est des consultants. Ils pensent que faire une agence, c'est être bon dans son métier. Et tout le monde se mange la même porte. C'est que non, faire une agence, c'est faire du sales, les potes. C'est créer une machine d'acquisition avec une marque en propre qui va être celle de l'agence et qui va pouvoir alimenter des consultants. Et c'est pour ça que la majorité des consultants ne peuvent pas en fait recréer cet environnement-là. Parce que déjà, faut la capacité de recrutement. En fait, il faut créer une boîte, simplement. Et les gens ne comprennent pas que tu n'es plus un consultant quand tu montes une agence, tu es un entrepreneur. Voilà. Et donc, il faut développer toutes les skills dont tu as besoin en entrepreneur. Tu peux devenir un super freelance si tu veux. Et à un moment, il faut devenir un entrepreneur. Moi, je ne suis pas un solopreneur. Je fais grossir une boîte. Tout ce que ça implique. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode d'Euro Tout est Mignonne. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et vous donne rendez-vous la semaine prochaine de retour de Thaïlande. Bisous à tous.